ce soir, c'est pas sans une certaine appréhension que je commence cette séance, parce que la dernière fois, certains m'avaient dit qu'ils avaient trouvé ça un peu difficile, et alors ce soir, ça va être encore beaucoup plus difficile. Donc accrochez-vous un peu, parce que forcément, la question du mal, eh bien, c'est une question assez métaphysique.
Oui.
Donc c'est une question qui est, que je redoute d'approcher, vraiment je tremble un peu, parce que c'est une question qui est difficile, qui est illimitée et qui est dangereuse.
Oui.
Une question difficile, eh bien, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de réponse. Hein, ça ne veut pas dire que la question du mal n'aura pas de réponse. Mais ça veut dire que, ni que la réponse est indécise ou qu'elle est confuse. Mais ça veut dire que vraiment cette question, la réponse s'éclaire vraiment qu'à partir d'un point, si vous voulez, où vraiment tout va s'éclairer. Mais il faut se dire ce point. Vous voyez, et des objections contre le mal, ben, y en a à l'appel. Il y en a à l'appel. Je sais pas, bon, je vous ai mis une petite bibliographie à la fin. D'ouvrages techniques, philosophiques et accessibles, donc plutôt facile pour aborder ça. Je vous recommande notamment le cardinal Journet qui a bien écrit là-dessus. Mais c'est sûr que sur cette question, bah, il faut lire la littérature. Oui, il faut lire la littérature, voir aussi, voilà, si on peut pas, si la philo n'est pas à votre portée, bah, lisez au moins les grands romanciers. Voyez, lisez Bernanos, tous les romanciers qui ont été obsédés par la question du mal, ben, Bernanos, voilà, Dostoïevski. Vous savez que Dostoïevski, eh bien, dans Les Frères Karamazov, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il accumule des objections contre un dieu qui permet le mal. Voilà. Et lui-même, bon, c'était à l'époque, vous savez, il écrivait petit à petit son roman, ça paraissait dans un journal, et il bétonnait vraiment à chaque fois toutes les objections contre un dieu qui permet le mal. Et il disait, ben, je tremble parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que les arguments, que les objections de l'athéisme sont les plus fortes. Et je ne sais pas comment je vais répondre. De fait, son roman est resté inachevé, vous savez, mais il a quand même donné un début de réponse. Mais le début de réponse, ça n'a pas été une réponse point par point à toutes les objections contre le mal. Sa réponse, c'est un déplacement de point de vue. Quelle sera la réponse de Dostoïevski? Eh bien, ce sera de nous montrer le saint. Voyez, il va nous montrer le Staret Zosim, la figure de la sainteté. Et c'est ça la réponse au mal, finalement. C'est un déplacement de point de vue. Voyez. Et donc, la réponse que je vais vous proposer, évidemment, c'est une réponse métaphysique qui suppose une certaine métaphysique. Mais peut-être que vous ne comprendrez pas tout. Peut-être que, ben, pensez à ce déplacement de point de vue, pensez à cette lumière qui illumine tout, qui change le point de vue. C'est une question qui est illimitée, le mal. C'est une question vraiment illimitée. Vous savez que le mal, il infecte tout, il s'étend à toute la création, depuis les anges jusqu'à la matière, tout est corrompu, tout est rongé par le mal. Et donc, comme c'est une question illimitée, eh bien, il faudrait que la réponse de soi sera illimitée. La réponse, c'est tout le christianisme, pratiquement, qui est toute une réponse contre le mal. Mais ça, en 1h, 1h30 de café-café, je ne peux pas vous faire toute la réponse, et je prétends pas, et de toute façon, ce serait complètement ridicule, vous voyez, que de prétendre apporter une réponse théorique suffisante à un problème qui est si existentiel, si profond. Hein. Donc, je vais apporter des éléments de réponse philosophiques, et c'est dangereux, d'une certaine façon. C'est dangereux parce que, je vais vous dire, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir, forcément, je vous le dis déjà. Les éclaircissements que je vais apporter, ça ne veut pas dire que ce soit faux, ça ne veut pas dire que la vérité est fautive, mais c'est que les éclaircissements, eh bien, ils ne suffiront pas de toute façon à apaiser une âme qui est tourmentée par le mal. Ça, il faut être très clair là-dessus. Hein, et peut-être que ce que vous allez entendre, eh bien, ça va vous sembler complètement vain et superflu. Eh bien, peut-être aussi que le moment est venu pour vous, voyez, de souffrir le mal et non plus de le penser. Mais c'est bien de le penser aussi, de temps en temps. C'est bien de le penser pour quand il arrive, voilà, on l'a pensé. Mais encore une fois, c'est pas ce dont on a besoin quand on souffre le mal. On n'a pas besoin d'un discours philosophique. Donc je vais essayer, vous voyez, de ne pas parler comme les amis de Job. Si vous avez lu le livre de Job dans la Bible, eh bien les amis de Job qui font une espèce de discours philosophique, en plus complètement foireux, eh bien à la fin, ils sont pas récompensés par Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Dieu loue Job, son serviteur, qui crie sa souffrance et tout, mais il ne loue pas les amis de Job qui ont essayé d'expliquer le mal, parce qu'ils sont complètement plantés. Oui. Et quand on est confronté au mal, c'est pas d'un discours philosophique dont on a besoin, vous voyez. Je vais essayer de ne pas parler justement comme les amis de Job, je vais essayer de ne pas parler comme le cardinal Suard, vous voyez. Le cardinal Suard, je peux le dire parce que c'est lui-même qui le racontait, eh bien, il était déjà pas cardinal à l'époque, il était jeune séminariste, l'abbé Suard, si vous voulez. Donc, et comme jeune séminariste, eh bien, on leur demandait d'aller visiter les hôpitaux, une très bonne chose. Et donc l'abbé Suard, tout fringant dans sa soutane, s'avance et il va visiter l'hôpital et puis il entre dans une chambre devant un malade qui souffre sur son lit d'hôpital, atrocement, etc. Et donc il est tout content avec toute la philosophie qu'il a appris au séminaire et la théologie qu'il a bien appris. Il commence à lui faire un beau discours. Ah oui, mon bon monsieur, vous souffrez atrocement. Et puis oui, mais c'est en fait, vous comprenez, c'est une grande grâce qui vous est faite parce que vous allez pouvoir être unis aux souffrances du Christ. Il faut offrir vos souffrances, etc., etc. Au bout de 10 minutes de discours, il le racontera plus tard. Eh bien, le patient sur son lit lui a dit « dites, monsieur l'abbé, si vous preniez ma place ». Et ça lui a coupé le sifflet et ça lui a servi de leçon, si vous voulez. Mais il ne faut pas faire ça, vous voyez. Je disais, on reçoit au couvent un journal qui s'appelle L'Homme Nouveau. Bon, c'est un bon journal, il y a des trucs que je recommande plutôt, il y a des trucs intéressants. Et il y a un billet qui... moi, je n'ai pas tellement le temps de lire, je préfère lire des trucs de fond, donc je ne lis pas trop les choses. Non, mais je disais, il y a un billet de Pasquin qui est intéressant, vous voyez, c'est un billet d'humeur un petit peu. Il racontait justement qu'il avait été à un enterrement, comme ça, un enterrement d'un petit enfant, dans un petit cercueil blanc, etc. Et il fustigeait justement ce qu'il appelait les grenouilles de Béniquet, qui à la fin de la cérémonie allaient porter leurs condoléances à la famille en disant « Oh oui, mais Dieu éprouve durement ceux qu'il aime ». Bah, vous voyez, quelqu'un qui me dit ça, quand je viens de perdre mon enfant, j'ai dit, bah, merci, je sais, déjà, premièrement, et puis, j'ai pas besoin de ça, vous voyez. Quand on a quelqu'un qui souffre, eh bien, on ferme sa gueule et on pleure avec lui, vous voyez. C'est ça, ce qu'il faut faire. Hein, c'est pas un discours philosophique dont on a besoin. Ça, soyons très clairs là-dessus. Il y a des places encore là pour ceux qui arrivent ça. Voilà. Ça étant, il faut affronter avec les arguments philosophiques le problème du mal. Pourquoi il faut le faire? Eh bien, parce que il faut répondre aux objections des athées. Vous voyez? Et les athées, justement, eux, ils ont plein d'objections sur un Dieu qui permet le mal. Il faut leur répondre. Vous voyez? Et la question du mal, elle est liée directement, la question de l'existence de Dieu est liée directement à la question de l'existence du mal. Vous voyez? Les deux sont liés. Ce qui est important de voir, c'est que l'ordre dans lequel on aborde les deux questions n'est pas indifférent. Vous voyez? Si je commence à me poser d'emblée la question du mal, eh bien, je vais m'y enfoncer complètement et je vais tomber dans l'absurde. Tandis que si je fais comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire prouver d'abord l'existence de Dieu, de façon irréfutable, en montrant qu'il y a un monde contingent, où tous les êtres sont contingents et passent, et que donc cela postule nécessairement un être nécessaire dont tout l'être est d'exister, eh bien, à la lumière de cette réponse, de cette première réponse, la réponse que je vais apporter à la question du mal sera très différente, vous voyez, très différente. Et le mal, c'est un mystère. Je dirais que la question du mal, c'est un mystère. C'est pas une contradiction, vous voyez. C'est toute la différence entre la contradiction qui est absurde, mais le mystère, c'est un trop-plein d'intelligibilité. Le mal est, Dieu est, leur coexistence est un mystère. Il y a une obscurité, c'est vrai, mais c'est un peu comme l'obscurité, si vous voulez, du hibou qui est face au soleil. C'est ça le mystère, vous voyez. Dans le mystère, la raison, elle doit se dépasser. Dans la contradiction, elle se suicide. Eh bien, justement. Alors, essayons de dépasser, de faire en sorte que notre raison se dépasse, mais qu'elle ne se suicide pas, vous voyez. On va essayer. Hein. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, ça c'est très important. C'est déjà Bossuet et Pascal qui disaient, vous voyez, une vérité ne contredit pas une autre vérité. On a établi l'existence de Dieu, il y a l'existence du mal, et on ne peut pas le nier. Certains ont essayé, on verra, il y a certains qui ont nié l'existence du mal. Mais bon, en général, c'est quand même difficile, hein, dans le monde dans lequel on est, de nier l'existence du mal. Mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne, tenir ces deux bouts de vérité, vous voyez, même si on ne voit pas par quel maillon la chaîne se réunit, où elle s'entre, on ne le voit pas bien. Eh bien, il faut tenir les deux, parce que c'est un grand principe de logique qu'une vérité ne contredit pas une vérité. Oui. Et la première règle, voilà, c'est qu'il ne faut jamais abandonner les vérités une fois connues. Quelques difficultés qui surviennent quand on essaye de les concilier. Voilà. Alors, qu'est-ce que le mal? C'est la première question à se poser, vous voyez, parce qu'avant de se poser la question de l'origine du mal, il faut évidemment savoir ce que c'est. Eh bien, le mal, je dirais, le mal, c'est une certaine négation. Vous voyez, c'est un certain non-être, une certaine négation d'être. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que, ça, tout le monde me l'accordera, le mal, ça s'oppose au bien. Ça s'oppose au bien, et il se trouve que le bien est convertible avec l'être. Alors, pourquoi je dis que le bien est convertible avec l'être? Bon, ça, je peux vous faire tout un cours sur les transcendentaux, au sens d'Aristote, pas au sens de Kant, bien sûr, hein, mais le bien, l'être et le bien sont convertibles. Parce que toute chose, le bien c'est ce que toute chose désire, et toute chose désire son être et sa perfection. Donc le bien et l'être sont convertibles. Bon, je pourrais vous montrer, je pourrais m'étendre là-dessus, je vous demande de me l'accorder au moins. Le bien et l'être sont convertibles, et donc si le mal s'oppose au bien, eh bien il s'oppose à l'être. Il y a une certaine négation de l'être. Mais je dirais, ce n'est pas toute négation, ce n'est pas un pur néant, vous voyez, un pur non-être. C'est pas ça du tout. Prenons un exemple, eh bien, le fait pour une pierre de ne pas avoir la vue, la pierre n'a pas la vue, voilà. Eh bien, c'est pas un mal. C'est sa nature de pierre, elle n'a pas la vue. Elle est aveugle, mais elle n'est pas aveugle, justement. C'est sa nature, elle est pierre. C'est normal. Le fait pour un homme de ne pas avoir d'ailes, c'est normal. L'homme n'a pas d'ailes. Bon, bah, on pourrait rêver qu'on ait des ailes, mais on n'a pas d'ailes. C'est normal. C'est pas un mal pour l'homme de ne pas avoir d'ailes. Par contre, le fait pour un homme de ne pas avoir la vue, ça, c'est un mal. Ça, c'est un mal. Parce qu'il lui manque quelque chose qui lui est dû. Quelque chose qu'il est apte à avoir et qu'il devrait avoir en fonction de sa nature. Voilà. Le fait pour un oiseau de ne pas avoir d'ailes, ça, c'est un mal. Ça, c'est un mal. Il manque quelque chose qui lui est dû. Oui, qui lui est dû, qui découle de sa nature, normalement. Et donc, on dira que le mal est une privation. Vous voyez, une certaine privation. Qu'est-ce qu'une privation? Eh bien, c'est l'absence d'un bien qui est dû. Voilà le mal. La définition métaphysique du mal, c'est l'absence d'un bien qui est dû. Et c'est vrai, même dans l'ordre de la morale, vous voyez, même une action mauvaise, eh bien, c'est une action qui manque sa rectitude, qui n'a pas sa rectitude qui lui est due. Voilà. Et on pêche, on se détourne de notre fin ultime, et eh bien on n'a pas la rectitude, l'acte manque de rectitude de la rectitude qui lui est due. Donc le mal, vous voyez, c'est une certaine privation, ce n'est pas une chose. Vous voyez, c'est pas une chose, il est dans une chose, parce qu'une privation, elle est toujours dans une chose. Le mal, c'est un certain non-être, vous voyez, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Ben, c'est comme la cécité de soi, ça n'existe pas, ça existe toujours dans un homme qui est aveugle, qui souffre de cécité. Voilà. Et le mal, c'est rien d'autre justement que cette privation de substance, vous voyez, c'est comme un vide qui se crée, un creux qui se crée dans l'être. Voilà. Et ça étant, vous voyez, je dis que le mal est un non-être, un certain non-être, je dis pas pour autant qu'il est complètement inexistant. Je dis un certain non-être. Il n'est pas complètement impuissant. Il n'est pas impuissant. Pourquoi? Eh bien, pour comprendre ça, vous voyez, faites une analogie. Pensez au nombre négatif. Vous voyez, il y a le zéro, qui est un pur néant, et puis il y a les nombres négatifs. Eh bien, le mal se rapporte à la négation d'être, la privation, par rapport à la négation pure, c'est comme un nombre négatif. Vous voyez, le mal est un creux, il creuse, il ronge quelque chose dans l'être. Vous voyez, il se pose sur un sujet. Et voilà, il est comme une lèpre qui le creuse. Voyez. Il y a une terrible réalité, vous voyez, de la privation. Ça détruit le bien. Le mal est toujours dans le bien. Le mal est toujours dans un bien qu'il détruit. Et quel est le pouvoir du mal? Eh bien, ce sera le pouvoir du bien qu'il détruit. On comprend déjà, vous voyez, d'une certaine façon, que eh bien, plus le bien va être grand, plus le mal qui va s'introduire dedans va être grand. Le plus grand mal, ce n'est pas la grippe porcine, vous voyez. Le plus grand mal, ben c'est quoi? C'est le péché de l'ange. C'est le péché de l'ange, parce que le bien qui est atteint, le bien qui est corrompu, c'est le plus grand bien, la plus grande des créatures. Voilà, et ça, c'est le plus grand mal. Voilà. Plus le bien est grand, voilà, mais plus le bien est grand, et bien plus le mal va être grand aussi. Mais notez bien déjà ce paradoxe du mal qui explique pourquoi c'est si difficile de le penser. Il est, et en même temps, il n'est pas. Il existe, mais que comme privation, comme un certain non-être, comme un vide qui manque, comme quelque chose qui manque. Voilà. Alors, un point aussi qu'il faut bien préciser, c'est que j'ai défini le mal comme une privation, mais il faut le comprendre de façon analogique. C'est-à-dire, de même que je vous avais dit la dernière fois que l'être est analogique, qu'il y a différents degrés d'être, que la définition de l'être, eh bien, elle se répartit proportionnellement en fonction de différents degrés. Et on ne dit pas de la même façon qu'un ange est, et puis qu'un homme est, et qu'une fourmi est. Eh bien, la même façon, le mal est une certaine... la privation qu'est le mal, la privation d'être qu'est le mal, eh bien, va se dire analogiquement. Et le mal, il y en a de partout. Il y en a dans le monde matériel, il y a du mal. Il y a dans la gère morale, il y a du mal. Dans le monde de la grâce, il y a du mal. Dans le monde de la nature, il y a du mal. Vous voyez, à chaque fois, il y a différentes sortes de mal. Et la réponse, et c'est très important de savoir ça, parce que la réponse qu'on va apporter à l'existence du mal va être différente en fonction de ces différentes sortes de mots. Ça, c'est un point à ne pas perdre de vue. Alors voilà, Dieu existe et le mal existe aussi. Et ça, c'est un scandale. Alors quelle va être la relation entre Dieu, dont on a vu qu'il est l'être pur, l'acte pur, un océan infini d'êtres, et le mal qui est un certain non-être. Quelle peut être la relation entre l'être absolu et un certain non-être? Un non-être, voilà, qui n'existe que dans un bien, que dans un être, voilà, qui n'existe pas par lui-même. Eh bien, ce qu'on dira, voyez, c'est que Dieu permet le mal. Ça va être la solution. Dieu permet le mal. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, la première chose qu'on veut dire, c'est qu'un mal pur, voyez, un Dieu du mal, c'est impossible. Un Dieu du mal, c'est quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce que le mal, c'est une privation. Et la privation, elle existe toujours dans un sujet. Il n'y a pas de mal sans un bien pour le supporter. Vous voyez? Le mal est toujours dans un bien. On dira un homme est mauvais, bah oui, mais il est mauvais, mais parce qu'il est d'abord homme. Il y a un homme qui existe. C'est cet homme-là qui est mauvais, parce que sa volonté est pervertie ou... Voilà. Mais le mal est toujours dans un bien. Et donc, l'idée d'un mal absolu, vous voyez, un mal radical, parfois on dit c'est le mal absolu, Hitler est le mal absolu, Staline est le mal absolu, ou je sais pas quoi, bah non. Non, parce que le mal absolu, c'est une notion intrinsèquement contradictoire. Il faut bien comprendre ça. De soi, un mal absolu, ben, ce serait un mal qui serait tellement présent, vous voyez, qui rongerait tout le bien. Mais s'il n'y a plus de bien pour le porter, s'il n'y a plus de bien pour s'introduire, eh bien, il disparaît de lui-même, vous voyez, il s'auto-détruit. Vous voyez, la lèpre, une fois qu'elle a fini de ronger complètement le corps, ou le bacille de la tuberculose, une fois qu'il n'y a plus de poumons, ben voilà, il disparaît. Il a tout rongé, vous voyez. Eh bien, un mal absolu, un mal radical absolu, c'est contradictoire, vous voyez, parce que tout mal existe toujours dans un bien. Un mal pur, ce n'est pas possible. Il y a toujours un sujet sous lequel se tient le mal. Et même certains vous disent, les athées vous disent en général, eh bien, Dieu ne peut pas exister parce qu'il y a le mal. Et moi, je veux dire exactement le contraire. Voyez. Il y a le mal, donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Il y a le mal, donc Dieu existe. Déjà, à leur objection, on pourrait répondre, eh bien, il y a du bien, donc Dieu existe. Il ne faut pas voir que le mal, c'est chaud. Il faut voir aussi le bien. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit il y a le mal et tout, bah oui, mais il y a aussi du bien, il faut bien l'expliquer ce bien. Donc Dieu existe. Voilà. Mais, enfin, comprenez bien la preuve de l'existence de Dieu. Enfin, je pense que vous avez bien compris ça avec les instructions du Père de Blinière déjà avant. La preuve de l'existence de Dieu, c'est pas de dire le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde c'est magnifique, le monde est parfait, et donc Dieu existe. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Ça, c'est l'apologétique et la Bernardin de Saint-Pierre. Vous voyez, les melons, c'est magnifique, les melons, parce qu'ils sont prédécoupés, vous voyez, pour le père de famille qui peut les couper, faire des parts bien égales, les distribuer autour de la table, ou la pomme a exactement la forme d'une main, comme c'est bien, et puis la cerise la forme de la bouche, et tout. Ça, c'est pas Madame Saint-Pierre, c'est complètement nul, vous voyez, comme apologétique, ça fait rire. Bon, c'est pas ça du tout. Et quand on dit Dieu existe, la preuve de l'existence de Dieu, c'est pas de se dire, les méchants sont toujours punis à la fin, donc Dieu existe. Parce que justement, que les méchants soient toujours punis à la fin, on le voit pas. On le voit pas vraiment dans le monde. Enfin, il y a des gens, il y a des sales types qui meurent dans leur lit et recrutent jour et tranquille, il n'y a aucun problème. Alors, le mal toujours puni à la fin, on ne le voit pas. Hein. Donc, c'est pas ça la preuve de l'existence de Dieu. La preuve de l'existence de Dieu, c'est de se dire, il y a le monde qui existe avec le mal, certes, mais le monde existe. Donc, Dieu existe. Parce que ce monde est contingent. Vous voyez, derrière tout mal, sous tout mal, il y a un sujet contingent qui se tient, un homme, ben, quelque chose, voilà. Il y a toujours, le mal est toujours introduit dans un bien limité, contingent. Eh bien, il faut expliquer cette contingence. Et donc Dieu existe, vous voyez. Ça, c'est le point important. Le mal, ça pose toujours la question de l'existence d'un sujet dans lequel il se trouve. Et c'est ce sujet contingent qu'il faut expliquer. Et pour ça, il faut remonter à l'existence d'un être nécessaire qui est Dieu. Pour ça, on l'a vu, vous l'avez vu les fois précédentes. Mais vous voyez, on peut très bien dire, le mal existe avec le monde existe avec le mal, vous voyez, le mal existe, mais il y a toujours un sujet sous le mal, et ce sujet, il faut l'expliquer. Voilà, il faut l'expliquer. Et pour ça, il faut remonter à Dieu. Alors Dieu crée-t-il, ou du moins cause-t-il le mal? Est-ce que Dieu crée le mal? Eh bien, déjà, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, Dieu crée absolument pas le mal, parce que le mal, c'est un certain non-être. Donc, le mal, il n'a même pas d'existence, d'une certaine façon. C'est pas une substance, le mal. Donc Dieu ne peut pas créer le mal parce que le mal n'est pas créable. Ce qu'il faut expliquer, c'est comment le mal s'introduit dans les choses. Comment ce vide, ce défaut s'introduit dans l'être. Vous voyez? Alors est-ce qu'on peut dire que Dieu cause le mal? Bien ça, retenez déjà bien ça dès le début. C'est que quand on dira que Dieu cause le mal, Dieu cause le bien, il n'y a aucun souci. Ça, d'accord. Mais Dieu cause le mal, je mettrai des bémols. Vous voyez? Il faut faire très attention quand on dit ça. Pour le mal physique, on le verra, pour le mal de la nature, bah, les tremblements de terre, la pauvre gazelle qui se fait manger par le lion, etc. Dieu le cause d'une certaine façon, indirectement. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des lions. Et c'est bien qu'il y ait des lions, quoi. Si un monde sans lions, c'est moins marrant. Tant pis pour la gazelle. Tant pis pour cette gazelle-là, c'est bien qu'il y ait des gazelles aussi, mais c'est... Voilà. Donc ça, Dieu le veut indirectement. Mais le péché, le mal du péché, le mal moral, le mal dans l'agir moral, ça, Dieu ne le veut aucune façon. D'aucune façon, pourquoi? Parce que qu'est-ce que le péché? Eh bien, le péché, c'est se détourner de sa fin ultime. Le péché, c'est de poser un acte, choisir un bien particulier, préférer un bien particulier au bien absolu qu'est Dieu. Et donc, c'est se détourner de Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas se détourner de lui-même. Et il ne peut pas vouloir que ses créatures se détournent de lui. Parce que Dieu s'aime nécessairement. Oui. Il aime bien absolu, il s'aime nécessairement. Donc, il ne peut pas se détourner de lui-même. Et donc, Dieu ne veut aucunement le péché. Le péché, il le veut document. Alors, voilà ce qu'on veut dire quand Dieu permet le mal. La permission, vous voyez, oui, qu'est-ce qu'une permission? Qu'est-ce que permettre une chose? Très important. Eh bien, la définition de la permission, c'est de ne pas empêcher quelque chose qu'on pourrait empêcher. On pourrait empêcher, mais qu'on n'est pas tenu d'empêcher. Ne pas empêcher quelque chose qu'on pourrait empêcher, mais qu'on n'est pas tenu d'empêcher. Alors vous allez me dire, bah, très bien, mais ça ne s'applique pas tellement à Dieu. Parce que, qu'on pourrait empêcher, d'accord, Dieu est tout puissant, donc sans doute il pourrait empêcher le mal, mais qu'il n'est pas tenu d'empêcher, quand même, il est bon. Donc est-ce qu'il n'est pas tenu d'empêcher le mal? Voilà, le problème est là, le problème est posé. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi il ne l'empêche pas? Eh bien, à ça, il faut apporter la réponse suprême. Vous voyez, la réponse suprême, c'est celle qu'a donnée saint Augustin, qui était, vous savez, très tourmenté par la question du mal. Il était manichéen dans sa jeunesse, donc il a beaucoup lutté contre cette hérésie, contre justement le fait qu'il y aurait un dieu du mal, etc. Et donc, il a beaucoup écrit sur le mal. Eh bien, sa réponse suprême, vous l'avez à la fin, je vous l'ai mis dans les textes, la réponse ultime ou suprême, c'est que Dieu Tout-Puissant et infiniment bon ne permettrait jamais à aucun mal d'exister dans ses œuvres, si sa toute-puissance et sa bonté n'étaient pas telles qu'il pût faire sortir le bien du mal. Si Dieu décide de permettre le mal, c'est pour en faire sortir un bien. Ça, je l'affirme nécessairement. Si Dieu qui est infiniment bon et tout-puissant laisse le mal exister, c'est pour en faire sortir un bien. Un bien mystérieux peut-être, mais un bien. Ça, c'est sûr. Voilà. Et Dieu a jugé meilleur de tirer le mal bien du mal que de simplement interdire le mal. Oui, interdire tout mal tout simplement. Voilà. Et comprenez bien, cette réponse suprême, je ne l'affirme pas par une induction. Je suis obligé de la poser a priori, voyez, avant toute vérification. Pourquoi? Parce que Dieu est bon et qu'il est tout puissant. Et je suis obligé de dire ça. Ben, c'est pas possible qu'à la fin qu'au bout du compte, le mal triomphe. Ce serait pour Dieu se détruire lui-même. Voyez. Ce serait pour Dieu, ce serait se nier lui-même, ce serait devenir mauvais. C'est pas possible. Donc si Dieu existe, nécessairement, on a vu qu'il existait précédemment, nécessairement, eh bien il faut poser que s'il permet le mal, c'est en vue d'un plus grand bien. Nécessairement. Vous voyez? Mais pour quel bien tel mal est-il permis? Bah ça, je sais pas trop. Hein. Souvent, parfois on sait, bah, je vous ai dit, on sait pourquoi la gazelle se fait croquer par le lion. Bon, ça on voit à peu près, parce que c'est bien qu'il y ait des lions. Mais pourquoi non, mais, l'exemple que prend saint Thomas, donc c'est parlant quoi, moi. Mais pourquoi tel mal m'arrive, vous voyez, ça souvent on ne sait pas. Dans les films de Hollywood, on sait, le héros se casse la jambe, et puis il va à l'hôpital, il rencontre une charmante infirmière qui devient sa femme, ils ont beaucoup d'enfants, et le happy end à la fin. Mais ça, c'est dans les films de Hollywood. Dans notre vie, souvent on ne voit pas trop pourquoi le mal nous arrive. Et donc j'affirme ça a priori. Et quand j'ai affirmé ça, vous allez me dire, bah, c'est bien gentil, mais toutes les questions ne sont pas résolues. Et je suis bien d'accord. Toutes les questions ne sont pas résolues. Parce que pourquoi choisir un monde mélangé du mal? Est-ce que Dieu ne pouvait pas, très bien, même s'il en fait sortir un bien au finish, est-ce qu'il n'aurait pas pu tout simplement faire un monde sans mal? Ça aurait été quand même, ou un monde avec un peu moins de mal quand même. Parce que on a la dose quand même, c'est pas mal. Hein. Si on fait la liste, on a quand même une dose de mal, on s'en prend plein la figure, quoi. Donc il aurait peut-être pu diminuer un petit peu quand même. Faire un peu moins de mal, ça aurait été quand même mieux. Est-ce qu'il n'était pas tenu même de le faire? Vous voyez? Alors, deux choses une. Soit il pouvait pas, mais il n'est pas tout puissant. Soit il voulait pas, mais alors il n'est pas bon. Alors allons-y, essayons de voir. Est-ce qu'il est tout puissant? À quoi Dieu est tenu en vertu de sa toute puissance? Dieu manque-t-il de puissance? Comment définir la toute-puissance divine? Vous voyez? Qu'est-ce que la toute-puissance de Dieu? Eh bien, la toute-puissance divine, c'est que Dieu peut toute chose. Dieu peut tout. Peut toute chose. Et quand je dis ça, attention. Attention. Dieu peut toute chose, toutes les choses qui sont, si vous voulez, intrinsèquement, absolument et en soi possibles. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu ne peut pas. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Un cercle carré, Dieu ne peut pas faire. Et 2 plus 2 égale 5, Dieu ne peut pas le faire. 2 plus 2 égale 5, c'est pas possible. Faire que nier le principe de contradiction, faire qu'une chose soit vraie et fausse en même temps et sous le même rapport, Dieu ne peut pas le faire. Avec toute sa puissance, ça c'est pas possible. Oui. Il ne peut pas faire une vallée sans montagne. Ça n'existe pas. Mais comprenez bien, c'est pas qu'on limite la toute puissance de Dieu en disant ça. C'est que les choses qu'on propose, eh bien elles sont contradictoires intrinsèquement. Elles sont intrinsèquement contradictoires, donc Dieu ne peut pas les faire. Ça je dis ça contre Descartes. Oui. Descartes, pour lui, il n'y a aucun problème. Dieu peut faire que 2 plus 2 égale 5. Vous voyez ? Dieu peut faire que... Dieu aurait pu commander qu'on le haïsse, que ce soit bien, que ce soit même méritoire de le haïr, de le détester. Ça, c'est Descartes. Sous couvert d'exalter la toute-puissance de Dieu. Il va faire ça. Mais c'est très dangereux, vous voyez. Et saint Thomas, même à l'avance, il avait répondu à Descartes en disant que c'est un blasphème. Vous voyez ce qu'il dit là. Parce qu'il fait dépendre le bien et le mal de la pure volonté de Dieu. Et non plus seulement de l'essence et de la nature de Dieu. Vous voyez. Dieu nous commanderait une chose, dirait une chose serait mauvaise parce que Dieu nous l'interdirait. Alors c'est le contraire. Dieu nous interdit telle chose parce qu'elle est mauvaise. Oui. Enfin, vous réfléchirez à ça, mais c'est des points importants. Parce que, attention, il faut voir la filiation de tout ça. C'est le nominaliste, c'est Occam, vous voyez, Dieu est tout puissant, donc volontarisme à fond les manettes, et Dieu pourrait décider tout ce qu'il veut, de tout, si vous voulez, n'importe quoi, quelque chose d'absurde, Dieu pourrait décider. Vous voyez, parce qu'il sépare la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Ils oublient complètement tous les attributs de Dieu, sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde, sa justice. Il ne faut jamais l'oublier, ils sont toujours unis en Dieu. C'est nous qui distinguons, pour comprendre, parce qu'on a besoin. Mais en Dieu, tout est uni, tout est un. L'essence de Dieu est un et simple. Vous voyez, pour nous, il est très complexe, Dieu. Et Dieu, en soi, il est simple. Il se connaît parfaitement, très simplement. Et bien, tous les attributs divins, vous voyez, ils sont un en Dieu. Il ne faut jamais séparer sa toute-puissance de sa sagesse. Sinon, qu'est-ce qu'on arrive? Eh bien, on arrive à l'athéisme contemporain. Vous voyez, il y a une filiation, d'ailleurs, directe de Sartre, de Descartes à Sartre. Sartre, on le reconnaîtra, et il reconnaîtra tout ce qu'il doit à Descartes. Pourquoi? Ben, simplement, que va faire Sartre? Eh bien, Sartre, il va dire, ben voilà, très bien, moi, je reprends le concept de toute-puissance de Descartes. Et simplement, Dieu n'existe pas. Et c'est moi qui suis tout puissant. Et c'est moi qui décide de ce qui est bon et mauvais. C'est moi qui décide de la nature des choses. Voilà. Et ça, c'est bon, c'est mauvais, mais c'est moi qui le décide. Je suis tout puissant. Voilà. Et du coup, eh bien, l'existence précède l'essence. Vous voyez, c'est moi qui décide de la nature des choses. Pourquoi il n'y a plus de loi naturelle aujourd'hui? Le pape le rappelait. Le concept de loi naturelle est complètement balayé parce qu'on est là-dedans. Et depuis, et ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis 14 siècles. Hein. Enfin, depuis le 14e siècle, si vous voulez. Hein. Ça fait un moment. Depuis Occam, le nominalisme, pratiquement. Mais comprenez bien ça, Dieu peut toutes choses, et toutes les choses qu'il peut, tous les possibles, en fait, il les peut parce qu'ils sont le reflet de son essence, le reflet de ce que Dieu est intrinsèquement. Quand Dieu crée quelque chose, c'est le reflet, c'est une image de ce qu'il est. Toujours. Et Dieu peut tout parce que les possibles, justement, participent, sont un reflet, une image, si vous voulez, de ce qu'il est lui-même. Voilà. Et pourquoi Dieu plus 2 égale 4 et pas 2 plus 2 égale 5? Eh bien parce que 2 plus 2 égale 4, cette vérité, ce principe, c'est vrai, eh bien, il reflète quelque chose de l'essence de Dieu. Quelque chose de l'essence de Dieu. Voilà. Et tout ce qui existe reflète quelque chose, de façon très limitée et imparfaite, de la bonté infinie de Dieu. Voilà. Alors, on va revoir ça. Mais, voyez bien, la question de la toute-puissance de Dieu. Ne perdez pas ça de vue. Hein. Ne jamais la séparer de sa sagesse. Et alors, Dieu manque-t-il de bonté? Alors, si Dieu peut faire une infinité de mondes possibles, parce que justement, il y a une infinité, vous voyez, Dieu peut faire une infinité de mondes possibles. Pourquoi? Parce qu'il est le bien infini. Et donc, quand il crée un monde, eh bien, il crée quelque chose de limité. Et entre le limité et l'infini, eh bien, il y a un abîme. Et donc, il peut toujours créer un monde meilleur. Vous voyez, on va le voir. Il peut toujours créer quelque chose d'autre. Alors, si Dieu peut faire une infinité de mondes, pourquoi il a choisi celui-là? Il n'aurait pas pu en choisir hein, quand même un peu meilleur, quoi. Voilà. On peut se poser cette question. Alors, est-ce que Dieu manque de bonté? Est-ce que Dieu a choisi ce monde? Est-ce qu'il manque de bonté? Alors à quoi Dieu est tenu en vertu de sa bonté? Eh bien en vertu de sa bonté, je vous l'ai dit, c'est le principe de saint Augustin, Dieu est tenu d'une chose, c'est que de faire en sorte qu'au bout, au total, au bout du compte, eh bien le bien l'emportera sur le mal. Ça, il y est tenu. Sinon, il se détruirait lui-même. Ça, on l'affirme. Dieu, s'il crée, il est tenu de créer un monde qui soit au total bon. Mais alors, Dieu est-il tenu justement de créer? Oui. Et très souvent, on se dit, bah oui, Dieu est tenu de créer. Parce que s'il ne crée pas, il y a un bien, quelque chose qui lui manque. On a l'impression qu'il y a un bien qui manque, quoi. Et puis qui s'ennuie, ou je sais pas. Bah non. Dieu, c'est le bien infini, vous voyez. Il est absolument parfait. Il a besoin de rien. Il n'a absolument pas besoin du monde, vous voyez. La création ne lui apporte strictement rien. Strictement rien. Si Dieu crée, voilà, il n'y a pas, je vous avais dit la dernière fois, hein, alors, souvenez-vous ce que je vous ai dit sur la création. Après la création, ben, il n'y a pas plus d'être. Il y a plus d'étang. Il y a des anges, des grenouilles, des hommes, des chiens, des chats, des chats. Mais en degré d'être, en intensité, il n'y a pas plus d'être. Dieu et le monde, c'est pas plus grand que Dieu tout seul. Parce que Dieu est le bien infini. et qu'on ajoute de l'infini à de l'infini, ben c'est rien, c'est tout. Le fini n'ajoute rien à l'infini. Et donc Dieu n'a absolument pas besoin du monde. Dieu n'a absolument pas besoin de nous créer. Dieu n'a absolument pas besoin de créer le monde. Voyez. Ça, c'est un point très important. Pourquoi Dieu crée? Eh bien, il crée toutes choses pour lui-même. Pour lui-même. Entendez, pour lui-même, pour les tourner vers lui. Voyez, pour leur communiquer une partie de sa quelque chose de une participation, on dira, un reflet, une image de sa perfection infinie. Dieu crée tout pour lui-même, vous voyez, ça veut pas dire qu'il est égoïste, vous voyez. Ça, c'était Kant, vous voyez, qui pensait que Dieu était égoïste. Alors, Kant avait posé de l'égoïsme en Dieu. Il disait, il y a un certain égoïsme transcendantal, parce que chez Kant, il faut que tout soit transcendantal, donc il met un égoïsme transcendantal en Dieu. Mais Kant n'a pas bien compris, là. Désolé, monsieur Kant, mais l'égoïsme, c'est quoi? C'est quoi l'égoïsme? Eh bien, c'est l'amour désordonné de soi-même, vous voyez. C'est s'aimer, si je m'aime moi plus que le bien de la famille, que le bien de ma famille, si je m'aime moi plus que le bien de ma patrie, si je m'aime moi plus que Dieu, là je suis égoïste. C'est désordonné. Mais Dieu il ne s'aime pas plus que le bien suprême, il est le bien suprême. Vous voyez ? Il ne peut pas s'aimer plus qu'autre chose. Il ne peut pas être égoïste, il est le bien suprême. Donc nécessairement il s'aime absolument lui comme ça. Il ne peut pas ne pas s'aimer. Il s'aime plus que tout. Ça c'est sûr. Et c'est important, vous voyez, parce que si on dit que Dieu crée pour l'homme, eh bien ça détruit Dieu. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça détruit Dieu. Parce que ça pose un but, une cause finale, un but qui est extérieur à Dieu. Dieu a tout créé pour l'homme, il faut bien préciser. Il y a certaines phrases, on peut parfois l'entendre dans un sens correct. Mais en sens que la création, l'homme est le chef-d'œuvre de la création, si vous voulez, qui domine la création. Mais Dieu n'a absolument pas besoin de l'homme. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a absolument pas besoin de l'homme. Pourquoi il crée? Pour communiquer une participation limitée et finie de son infinie splendeur. Uniquement pour ça. Pour communiquer un pâle reflet de son infinie splendeur. Pour qu'on le loue, pour que sa bonté se répande. C'est tout. Mais il n'en a pas besoin. Vous voyez, absolument pas besoin. Dieu n'acquiert rien en créant. Absolument rien. Et à la limite, vous voyez, Dieu est absolument libéral. Le pur libéral, c'est pas Sarkozy, vous voyez, c'est Dieu. Dieu, d'une certaine façon, enfin, dans un sens libéral complètement différent, mais vous voyez, Dieu est complètement, il est purement libéral parce qu'il crée purement gratuitement. La création est complètement gratuite. Voilà. Donc Dieu n'est pas tenu de se répandre d'or, Dieu n'est pas tenu de créer. Parce qu'il est la bonté infinie, vous voyez. S'il y avait un monde, la bonté infinie, ben, elle ne peut pas devenir meilleure. Elle ne peut pas devenir meilleure. Donc le monde ne lui apporte rien. En créant, il ne devient pas meilleur. Il est déjà la bonté infinie. Alors on me dirait, s'il n'est pas tenu de créer, est-ce qu'il ne pouvait pas au moins, s'il crée, créer le meilleur des mondes? Un monde qui soit top, quoi, qui soit quand même meilleur que le nôtre. Un monde vraiment le meilleur des mondes possible. Le meilleur des mondes possible. Ben ça, c'est Leibniz. Leibniz. Vous savez, Leibniz qui a été raillé par Voltaire, si vous avez lu, ça c'est le genre de bouquin qu'on lit en classe de 3e ou 4e, dans tous les lycées de l'éducation nationale. Candide, voilà, Candide, ben, Voltaire raille, et à juste titre, Leibniz qui dit que ben, Dieu, il a fait ce qu'il pouvait finalement, puis il a créé le meilleur des mondes possibles. Il ne pouvait pas y avoir un meilleur monde possible que ça. Alors on voit Candide qui se balade avec Pangloss, et Pangloss c'est son savant, vous voyez, son maître, mais en fait c'est Leibniz, hein, ni plus ni moins. Hein. Et c'est Leibniz qui est toutes les catastrophes qui leur arrivent, qui leur tombent sur la figure et tout, et à chaque fois il y a la phrase de Pangloss qui dit ben, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. À chaque fois il y a des catastrophes épouvantables qui leur arrivent et ils disent ça. Voilà, ben, c'est complètement absurde et ça nous fait rigoler. Et Saint Thomas, ça leur a fait bien rigoler. Parce que Saint Thomas, il dit que, qu'est-ce qu'il répond à ça? Et bien, il dit, un monde meilleur que celui-là est parfaitement possible. Dieu aurait parfaitement pu faire un monde bien meilleur que celui-ci. Il aurait pu le faire. Voilà. Si Dieu crée, vous voyez, pourquoi Dieu crée? Eh bien, pour manifester quelque chose de sa bonté. Pour manifester de façon finie, de façon limitée, quelque chose de son infinie splendeur. Voilà. Mais un univers, justement, un univers créé, un univers fini, vous voyez, qui exprimerait adéquatement la bonté infinie de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Dieu est le bien infini. Le monde qu'il créera sera forcément imparfait, sera forcément limité. Ou alors, il faudrait, s'il y avait un monde qui serait adéquatement, vraiment, le reflet adéquat de Dieu, alors Dieu serait tenu de le créer. Un Dieu bon serait tenu de créer ce monde-là, et de choisir ce monde-là. Mais un monde infiniment bon, vous comprenez bien que c'est impossible. Un monde qui est la bonté infinie, ben c'est Dieu lui-même. Ça voudrait dire que Dieu se crée lui-même. Alors, il y aurait deux dieux. enfin, un problème. Hein. Donc, voilà. Donc Dieu ne peut pas créer. Voilà. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Ça je vous l'ai dit. Dans toute puissance, il ne peut pas créer. Il peut pas se créer lui-même. Il ne peut pas créer un monde infiniment bon. Infiniment bon, dans le sens, voilà, parce que l'infiniment bon, c'est lui, c'est Dieu. Vous voyez, l'hypothèse est absurde. Et donc Dieu peut toujours créer un monde meilleur que ce qu'il fait. Chaque fois qu'il fait une chose, il peut en faire une meilleure. Parce qu'il y a toujours, entre quelque chose qui est infini, et quelque chose, entre l'infini de Dieu et le monde défini, et bien, il y a, dans le fini, il y a toujours des degrés. Vous voyez, c'est comme une asymptote. Vous voyez, en maths, on voit, ça tend vers l'infini. Voilà. On peut toujours rajouter quelque chose, mais on tend vers l'infini, mais on ne comble jamais. Vous voyez, on ne comble jamais cet infini, la bonté infinie de Dieu. Alors rien, aucun être créé ne peut représenter adéquatement la bonté infinie de Dieu. Donc Dieu peut toujours faire un monde meilleur. Ça, c'est sûr. Et donc l'acte créateur de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, c'est qu'il est complètement libre. Dieu est complètement libre. D'une part, il pouvait ne pas créer, et en plus, il pouvait créer un monde qui soit meilleur que celui-là. Voilà. Si on dit pourquoi Dieu a-t-il créé ? Eh bien, je réponds, ça, la seule réponse qui soit valable, c'est de dire pour communiquer un reflet, une image finie et limitée de son infinie splendeur. Et pourquoi Dieu a créé ce monde-ci plutôt que tel autre, qui serait peut-être moins bon ou qui serait meilleur ? Eh bien, pour communiquer telle participation, tel reflet fini et limité de son infinie splendeur. Voilà. Donc l'acte créateur de Dieu est complètement libre. Attention, hein, quand je dis qu'il est complètement libre, ne tombez pas justement dans le cartésianisme que j'ai dénoncé précédemment. Ça ne veut pas dire que Dieu a aucune raison de créer. Aucune raison dans le sens où il n'a aucune convenance à ce qu'il crée. Parce que Dieu est la bonté infinie. Donc pour ce qui est la richesse infinie, pour la richesse suprême et infinie, si vous voulez, il y a une très grande convenance. C'est très convenable qu'elle se répande au dehors, qu'elle fasse participer sa bonté, vous voyez. Ben, voilà, quelqu'un de très savant, c'est normal qu'il fasse communiquer sa science, qu'il ne la garde pas pour lui. Il y a une convenance, vous voyez. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a une convenance. Eh bien, Dieu, il y a une convenance à ce qu'il fait. Mais une convenance, ça n'inclut pas une nécessité, vous voyez. Il n'est pas obligé de le faire. C'est très convenable qu'il le fasse. Voilà. Faites attention parce que souvent, il y a un adage, un néo-platonicien, justement. J'avais tapé sur les néo-platoniciens la dernière fois, vous voyez, sur l'idée, Spinoza, vous voyez, le monde, le panthéisme, c'est-à-dire Dieu se répand, vous voyez, et Dieu c'est le monde, finalement. Et l'adage, c'est le bien diffusif de soi. Le bien diffusif de soi, c'est vrai, mais n'imaginez pas ça, souvent on imagine ça comme, voilà, je renverse mon café au lait le matin, alors c'est un truc, ça se diffuse, c'est plate, et ça dégouline, quoi. C'est pas ça, Dieu quand il crée le monde, il dégouline pas. Du bien diffusif de soi, c'est pas dans l'ordre de la cause finale, il faut le comprendre, dans l'ordre de la cause efficiente, c'est dans l'ordre de la cause finale, justement. C'est Dieu nous attire. Vous voyez, il nous communique quelque chose de sa perfection, on est attiré par sa perfection. Il nous donne une perfection à acquérir. Et sa perfection, c'est lui, c'est atteindre. Voilà. C'est ça, Dieu nous attire. Voilà, ça c'est vrai. Mais n'entendez pas ça dans voilà, le soleil, oui, le bien diffusif de soi, alors le soleil, il communique de la chaleur. Ça, il peut pas. Mais Dieu, dans la création, elle est purement volontaire. Purement volontaire. Dieu ne peut il décide de créer. C'est pas arbitraire parce qu'il y a une raison de convenance, mais il pouvait ne pas le faire. Il pouvait parfaitement ne pas le faire. Alors reste à voir, maintenant, Dieu peut, sans manquer à sa bonté, je vous ai dit, créer un monde dans lequel il y a du mal, pourvu qu'au bout du compte, le mal, le bien l'emporte. Voilà. Il pouvait créer un monde, il aurait pu faire un monde meilleur que celui-ci, il peut toujours faire quelque chose de meilleur, il aurait dû faire un monde moins bon que celui-ci, mais qui soit bon au total. Eh bien, il a fait ce monde-là. Alors la question, c'est, essayons de voir quelle convenance il pouvait y avoir à faire ce monde. Pourquoi Dieu a permis le mal dans ce monde? Pourquoi a permis ce monde-ci, avec une bonne dose de mal, comme je vous ai dit? Alors là, c'est là qu'il faut distinguer entre les différentes sortes de mal. Alors le premier mal, c'est le plus facile à comprendre. C'est le mal physique, vous voyez, c'est le mal de la nature, ce que j'appelle le mal de la nature. Ben, le mal de la nature, c'est quoi? Dites-vous, c'est le mal qui dépend pas de l'homme, quoi. En gros, voilà, la peste, le choléra, la grippe porcine, le paludisme, la maladie d'Alzheimer, le sida, la mucoviscidose, la schizophrénie, la dépression, tout ça. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les ouragans, les sécheresses, etc. Voilà, ça c'est le mal physique. Bon, il y a déjà une bonne dose, hein. C'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Dieu permet ça? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que déjà Dieu a voulu, vous voyez, qu'il y ait un monde dans lequel il y a une multiplicité d'êtres. Il y a plein d'êtres. Plusieurs êtres différents. Et une multiplicité d'êtres. Notre Dieu, il aurait pu se contenter, vous voyez, de faire un monde où il y aurait eu une créature. Une seule. Et cette créature aurait reflété son infinie splendeur. Voilà, il aurait plutôt, s'il avait fait ça, il aurait plutôt choisi un ange, quoi. qu'on l'a représenté, parce que ça représente mieux qu'une fourmi ou qu'un crapaud. L'ange, c'est quand même plus chouette. Donc il aurait choisi ça, il aurait créé un ange, mais il aurait pu en créer qu'un. Voilà. Puis voilà. Puis il aurait été un monde bon et merveilleux. Et voilà. L'ange aurait été le monde à lui tout seul. C'est pas ce qu'il a voulu. Il a voulu qu'il y ait plusieurs. Il n'a pas voulu créer un seul homme, il a créé des millions, des milliards d'hommes. Voilà. Parce que la multiplicité, elle représente mieux son infinie splendeur. Vous voyez, elle représente mieux son infinie splendeur qu'une seule créature. Parce que une seule créature, ce serait jamais qu'un seul aspect, vous voyez, qu'un seul aspect de Dieu. Ce serait jamais une créature, elle ne représente jamais Dieu que sous un seul aspect. Ben, Dieu a voulu qu'il soit représenté, que sa splendeur soit représentée sous plein d'aspects différents. Donc il a créé plusieurs êtres différents. Et puis en plus, il a voulu que non seulement ces êtres, voilà, qu'il y ait non seulement une multiplicité d'êtres, mais qu'ils soient en plus différents, qu'il y ait des degrés d'êtres. Voilà, il a voulu qu'il y ait des anges au sommet, puis qu'il y ait des fourmis, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des cailloux, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des chiens, des chats, des lions, des trucs. Bon, voilà, il a voulu tout ça. Pourquoi? Parce que là encore, il y a des degrés d'être. Vous voyez, il aurait pu se contenter de créer un million d'hommes. Ben, ça aurait été un peu triste, quoi. Alors, ça aurait été bien, hein, ça aurait été bon et tout. Mais voilà, il a voulu créer en plus voilà, des tas de choses, des plantes et tout ça. Il aurait pu créer, parce qu'il y a des degrés d'être, il aurait pu créer un million d'anges, ben, ça aurait suffi. Enfin, un million d'anges, c'est encore. Ouais, c'est un mauvais exemple, parce qu'un million d'anges, il y aurait déjà des degrés d'être. Parce que vous savez, chaque ange a une espèce différente d'un autre. Donc, il y a autant de différence entre un ange et un autre qu'entre un chien et un chat. C'est formidable. Nous, on s'imagine les gens comme des hommes un peu qui se ressemblent tous, quoi. Comme des hommes, mais non. Les anges, comme ils n'ont pas de matière, ils se distinguent par leur forme. Et donc, ils sont complètement. Voilà. Chaque ange est sa propre espèce. Chaque ange est sa propre espèce. Autant d'anges que. Mais il y a autant de différence entre un ange et un autre qu'entre un chien et un chat. Enfin, imaginez-les intelligents, tout ça. Et Dieu a voulu des différents degrés d'être, toute une échelle d'être de différents degrés. Et il a voulu beaucoup plus que ça. Il a voulu que ces êtres ils changent. Vous voyez, il n'a pas voulu un monde immuable. Il a voulu qu'il y ait des changements dans le monde. Que les êtres exercent une certaine causalité les uns sur les autres. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. De magnifique parce que ça reflète quelque chose en Dieu, ça reflète l'acte créateur de Dieu. Vous voyez, on a la dignité de cause. La dignité de causalité. Vous voyez, on est élevé à la dignité de cause. On peut produire un effet, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, qui n'existerait pas sans nous, et qui est complètement nouveau. Et bien ça reflète la création de Dieu. Alors évidemment, on n'est pas créateur au sens où vous l'avez compris la dernière fois, où Dieu crée tout à partir du néant. C'est pas du tout ça. Nous, on transforme les choses. Mais il y a quand même un reflet, vous voyez, de la création de Dieu en ça. On peut produire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est une grande dignité, vous voyez. Il y a Malebranche n'a rien compris, vous voyez. Malebranche, pour lui, il n'y a qu'une cause, c'est Dieu. Dieu agit partout. Vous voyez, quand je prends la bière, là, pour la boire, eh bien, c'est Dieu, en fait, qui me meut la main directement. Il n'a pas complètement faux. C'est vrai qu'il y a Dieu, parce que Dieu est premier moteur, et donc, il donne des impulsions, il faut une impulsion du premier moteur pour tous les mouvements. Mais c'est vrai aussi que j'ai une vraie dignité de cause. Vous voyez, sous prétexte d'exalter encore une fois la grandeur de Dieu en disant que Dieu est la seule cause, eh bien, au contraire, il ne l'exalte pas du tout. Vous voyez, il la rabaisse. Parce que c'est plus grand pour Dieu et ça rend beaucoup plus gloire à Dieu qu'il y ait différentes causes, des êtres qui soient des causes, qui puissent causer quelque chose, qui reflètent son acte créateur. Voilà, donc Dieu a voulu qu'il y ait des causes et qu'il y ait des effets. Qu'il y ait des transformations. Bah rien, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, ça c'est un grand adage physique, bah, c'est vrai. Voilà. Et bien, le problème c'est que ça fait du mal. Ça fait du mal. Le mal il vient de là. Le mal physique de la nature il vient de là. Parce que pour qu'il y ait de l'eau, et bien ça fait du mal à l'hydrogène et à l'oxygène. Vous voyez, parce qu'ils disparaissent, ils sont détruits d'une certaine façon, bah, en tant qu'hydrogène et oxygène, voilà, et ça fait de l'eau. Voilà. Voilà. Pour qu'il y ait des lions. Eh ben, et encore une fois, il faut que la pauvre antilope se fasse manger. Alors ça nous fait quick, comme dirait le cerf de minière, vous voyez, c'est triste de voir la pauvre antilope. Mais ça, c'est parce qu'on fait de l'anthropomorphisme, vous voyez. Même si, bon, c'est pas complètement idiot, hein. C'est vrai que c'est bon, il y a un être vivant qui meurt. Mais on comprend que ce que Dieu veut, en créant des antilopes qui se font manger par les lions, eh ben, ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait des lions. Vous voyez, et c'est bien qu'il y ait des lions. Et donc pour qu'il y ait des chats, eh ben, il faut qu'il y ait des souris qui se fassent croquer. Ben, c'est bien qu'il y ait des chats, parce qu'un monde sans chat, c'est drôlement ennuyeux. Quoi. Voilà, c'est magnifique un chat. Quoi. Un chat qui chasse et tout, qui attrape une souris, voilà, et joue avec. Bon, triste pour la souris, vous allez me dire, mais encore une fois, c'est bien qu'il y ait des chats. Et un chat herbivore, ben un chat herbivore, c'est pas un chat. Il me dit, parce qu'un chat herbivore, ben, il n'aurait pas les dents d'un chat, il n'aurait pas les griffes rétractiles d'un chat, il n'aurait pas la vision d'un chat, il n'aurait pas tout ça. Donc ce ne serait pas un chat. Mais je dis ça parce qu'il y a parfois des gens qui me disent, qui pensent qu'au paradis terrestre, eh bien, les lions, ils mangeaient de l'herbe, avant le péché originel. Ben, Saint Thomas, il rigole un peu de ça, hein. Il dit, pas du tout. Hein. Et le péché originel, on le verra, il n'a pas changé les natures des animaux. Hein. Au paradis terrestre, bah, les lions bouffaient les antidotes. Hein. Il n'y avait aucun problème. C'est simplement, ils ne bouffaient pas l'homme. C'était ça. Voilà. Parce que l'homme, on verra, avait un certain pouvoir dominatif sur les animaux. Vous voyez, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Le péché originel, quelle est la conséquence, bah, c'est que les animaux ont peur de l'homme. Ça, c'est vrai. Avant, ils lui obéissaient. Ils étaient soumis. Mais le lion, bah, il aurait mangé de la viande au paradis terrestre. Hein. La prophétie d'Isaïe, vous savez, le lion habitera avec l'agneau et tout ça, c'est une prophétie, c'est une parabole. Pour dire que les méchants repentis, eh ben, ils seront avec les gentils. Voilà. Mais les hommes, ça vise des hommes, ça vise pas les animaux. Voilà. Donc Dieu veut qu'il y ait des êtres qui changent. Et pour qu'il y en ait qui changent, eh bien, il y en a qui sont détruits. Il y en a quelques-uns qui sont détruits. Et c'est un bien pour le bien de tout l'univers. C'est un mal, c'est un vrai mal. Hein, je dis pas. Pour la souris qui se fait manger par le chat, c'est un vrai mal d'être mangé. C'est un vrai mal, je ne dis pas que c'est un mal. Mais c'est un mal qui est comme absorbé dans le bien qu'il explique, vous voyez, dans le bien de tout l'univers. Et le bien de tout l'univers, c'est qu'il y ait des chats. Parce que c'est bien qu'il y ait des chats, vous savez, pourquoi Dieu a créé les chats, c'est pour que l'homme puisse caresser son tigre. Joli. Voilà, donc le mal physique est bien réel, mais il est absorbé dans le bien qu'il explique. Voilà. Et la souffrance des animaux, ben, la souffrance des animaux, on comprend bien, c'est la rançon de leur sensibilité, vous voyez. Pour qu'il y ait une sensibilité, il y a une vulnérabilité des organes. Et donc ils souffrent. Parfois ils souffrent. Voilà. Alors Dieu aurait pu peut-être faire une souffrance moindre, mais nécessairement il y a une vulnérabilité de l'organe. Vous voyez, l'organe, voilà, on voit quelque chose dans l'œil, c'est mal. C'est normal. C'est normal. Sinon vous ne sentez pas. Pour qu'il y ait des animaux, il faut qu'ils sentent quelque chose. Éventuellement, bah, il y a de la douleur. Mais l'erreur, vous voyez, attention. L'erreur, ce serait d'expliquer le mal de l'homme. On le verra, la mort et la souffrance des hommes, comme on explique le mal physique, comme on explique la mort de la souris ou de l'antilope ou de la fourmi. Ça, ce serait une grave erreur, c'est l'erreur de Leibniz, vous voyez. C'est l'erreur dans Candide, voilà, une semaine, voilà, vous allez expliquer à la mère qui vient de perdre son enfant, vous allez lui dire, oh oui, vous venez de perdre votre enfant, bah ma pauvre dame, oui, bon, vous êtes triste, mais en fait, c'est très bien parce que ça permet de remplir tous les degrés d'être de l'univers, vous voyez, et puis en fait, il n'y a aucun souci, il faut que tout change et tout se renouvelle, et voilà, bah, qu'est-ce qu'elle répondra? Elle vous collera une baffe et elle vous dira, rendez-moi mon enfant, et elle aura bien raison, et elle aura bien raison. Donc, n'expliquons pas, je réserve ça à la question de la mort des hommes, c'est un autre problème. Et puis, au sommet de toute la création, Dieu a voulu, en plus, non seulement des êtres qui causent, qui font des effets, voilà, bah même une pierre, ça cause d'une certaine façon, ça interagit, ça, les minéraux s'oxydent, etc. Voilà. Ça a une dignité de cause, d'une certaine façon. Et même, il a voulu beaucoup plus que ça, il a voulu faire des êtres qu'il connaît, qui sont libres et intelligents. Et ça le rend infiniment plus, vous voyez, ça rend infiniment plus gloire à Dieu que la création d'un chat, d'un chien ou d'une pierre. Infiniment plus. Parce que l'être le connaît, peut le louer, peut le connaître. Et le problème, la rançon de tout ça, c'est qu'il y a une liberté. Et donc, cet être-là, qui est libre, il va pouvoir commettre le mal. Mais il va le faire d'une façon très différente du mal physique. Et là, on entre dans le mal du péché. Et alors là, c'est le cœur du problème. Le mal du péché, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus obscur. Pourquoi Dieu permet le péché? Voilà. Eh bien, Dieu ne veut d'aucune manière le péché. Je l'ai dit au début, ce serait se détruire lui-même, ce serait se détourner de lui-même. Il ne veut d'aucunement. Mais comment l'en exonérer? Comment exonérer Dieu du péché? Alors là, il y a une réponse. La réponse facile que fait le cateau plus ou moins bien formé, souvent c'est ce qu'on entend encore, même sur les radios catholiques, etc., où chaque fois qu'il y a un débat, ça m'énerve souverainement, parce que chaque fois qu'il y a un débat entre un athée et un catholique, souvent le catholique est nul. Non mais c'est vrai, c'est vraiment. Là je lisais un bouquin c'était un bouquin en question-réponse entre un prêtre, dont je tirais le don par charité, et puis Comte Sponville. Et bien c'est Comte Sponville qui avait raison, qui était même plus catholique et plus proche de Saint Thomas dans ses objections que le catholique. Ben, ça fait pitié, quoi. C'est quand même dommage. quand même vraiment dommage. Alors la réponse souvent du catholique, du croyant, c'est de dire, ah ben oui, il y a le péché, mais c'est parce que Dieu respecte notre liberté, vous comprenez? Dieu respecte tellement notre liberté qu'il y a le péché. Alors c'est sûr, s'il n'y avait pas notre liberté, il n'y aurait pas le péché, ça c'est sûr. Mais Dieu, il aurait parfaitement pu faire une liberté, vous voyez, qui ne pêche jamais. Hein. Ça, il peut faire. Il peut faire une liberté qui ne pêche pas. Il est tout puissant, Dieu. On va le voir. Vous savez, Dieu, il peut faire il peut faire vouloir des hommes qui ne veulent pas. C'est même une proposition. Le catholique, vous voyez, si vous niez ça, vous êtes hérétique. Ça a été condamné par le pape Paul V contre... C'est, voilà. Dieu peut faire vouloir des hommes qui ne veulent pas. Parce qu'il a créé leur volonté et meut leur volonté de l'intérieur. Et donc, il peut faire vouloir des hommes qui ne veulent pas. Saint Paul, sur le chemin de Damas, il n'avait pas trop envie d'être devenir chrétien. Alors, il n'est pas très bien disposé, quoi, vraiment. Et pourtant, il s'est converti. Hein. Et librement. Dieu n'a pas à respecter son libre arbitre, attention. Mais Dieu a mu sa volonté de l'intérieur. Et il s'est converti, comme ça, retourné comme une crêpe. Bon, Dieu peut le faire. Alors, faites attention à toute cette théologie très à la mode, vous voyez, qui est de dire, et ça, justement, quand Sponville a parfaitement raison de critiquer ça, qui c'est de dire, Dieu est la première victime du mal, vous voyez. Dieu, c'est la victime du mal, Dieu est fragile. Il respecte notre volonté, il renonce à sa toute-puissance d'une certaine façon pour que l'homme soit libre. Vous voyez, ce qu'on donne à l'homme, eh ben, on l'enlève à Dieu. Et toujours un peu cette idée-là. Vous voyez, Dieu il veut tellement respecter la liberté de ses enfants, eh ben, qu'il se retire de l'histoire, il se retire de sa création. Il y a une impuissance de Dieu devant le mal, finalement. Vous voyez, Dieu est impuissant parce qu'il a laissé la liberté à ses enfants. Et finalement, un amour qui crée des libertés, un amour créateur de Dieu qui crée des libertés, eh ben, il peut être qu'un amour souffrant. Et ce serait ça. Dieu, il souffre en silence, vous voyez. Voilà, c'est Hans Jonas. Je ne sais pas si vous avez entendu Hans Jonas. Ben voilà, lui, il est juif, mais bon, et voilà, pratiquement, depuis Auschwitz, ben, Dieu est on a la preuve que Dieu est impuissant. Ça va pas. Ça va pas. On va le voir. Hein. Souvent, alors, derrière tout ça, il y a toujours une fausse conception de la toute-puissance de Dieu. Comme je vous ai dit, il s'imagine un peu Dieu comme un espèce de tyran, vous voyez, qui écrase ses créatures. Un espèce de super monstre qui les maintient en... mais c'est pas ça, Dieu il est tout puissant, il est sage en même temps, il est amour, sa toute puissance elle est amour. Vous voyez, je sais pas quelle vision ils ont, enfin je sais pas quel catholique ils ont en tête, parce que j'ai jamais vu de catholique qui pensait que Dieu, le Dieu tout puissant, c'était un espèce de super tyran pharaonique qui écrase un potentat oriental, qui écrase tout. C'est pas du tout ça, hein. Dieu credo in Deum patrem omnipotentem patrem. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, il est en même temps amour, vous voyez. Alors, peut-être certains ultra-calvinistes, je sais pas, qui ont peut-être pensé ça, mais je pense même pas, vous voyez. Un Dieu comme ça qui écraserait ses créatures, non. Alors, mais vous voyez, c'est très grave de dire ça, parce que dire que Dieu est impuissant devant le mal de l'homme, que Dieu, il laisse sa créature libre, et donc c'est pour ça, nécessairement, il y a du mal, parce que Dieu a laissé la créature libre. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas libre, lui. Parce que Dieu, je peux vous dire, Dieu, le mal, il ne peut absolument pas le faire. Il ne peut pas faire le mal. Ce serait se détourner de lui-même, comme je l'ai dit. Et pourtant, il est souverainement libre. Le Christ, sur terre, comme homme, il ne pouvait pas faire le mal. Il avait la vision béatifique, il voyait l'essence de Dieu. Il ne pouvait absolument pas pécher. Et pourtant, aucun homme n'a été aussi libre que lui. Il était parfaitement libre, il ne pouvait pas faire le mal. Au ciel, on sera parfaitement libre et on ne pourra pas faire le mal. Les élus, les saints au ciel, ils ne peuvent pas faire le mal. Pourquoi ils ne peuvent pas faire le mal? Parce qu'ils voient l'essence de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est, pour eux, c'est impossible. Voilà. La très sainte Vierge, la très sainte Vierge, elle pouvait faire le mal, elle pouvait, vous voyez, mais elle ne l'a jamais fait. Alors on pourrait se dire, la pauvre, elle a pu faire un petit péché véniel pour voir, pour être un peu libre. Parce que la liberté, ce serait, vous rendez-vous bien compte que ça ne va pas. Vous voyez. Et derrière tout ça, vous voyez, il y a une fausse conception de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Comment je définis la liberté? La liberté, c'est l'indétermination de la volonté par rapport au bien particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'entre différents biens particuliers, une bière ou un Coca-Cola, eh bien, je peux choisir. Et j'ai le choix, parce que c'est des biens limités. J'aime bien le Coca, j'aime bien la bière. La bière, ça rafraîchit plus que le Coca. Le Coca, c'est sucré, oui, mais le Coca, c'est bon. Bon, voilà, c'est des biens. Chacun est bien, mais c'est pas le bien absolu. Notre volonté, il n'y a qu'une chose qu'elle ne peut pas ne pas vouloir, c'est le bien absolu. Ça, elle le veut nécessairement. Parce qu'elle est créée par Dieu, elle tend nécessairement au bien absolu. Mais le bien absolu, je ne le rencontre pas ici-bas. Hein. Le bien absolu, ici-bas, je ne le vois pas du tout. Le bien absolu, il n'y a qu'une chose que je veux ici-bas nécessairement, c'est le bonheur. Ça, je le veux. C'est le nom sous lequel je mets le bien absolu. J'appelle ça bonheur. Ça, tout le monde le veut. Jusqu'à celui qui va se pendre, dit Pascal. Jusqu'à celui qui va se pendre veut être heureux. Alors, on veut tous être heureux. Mais justement, parce que notre volonté tend vers le bonheur, tend vers le bien absolu, et qu'elle ne rencontre ici-bas que des biens particuliers, des biens limités, eh bien, elle est libre dans le choix de ses biens. Oui. Elle est libre. Elle peut choisir, bah, voilà, une glace au vanille ou une glace au chocolat. Elle peut choisir, voilà, entre différents biens. Et parfois, ces biens même seront des maux, sous une certaine raison, parce qu'ils vont m'éloigner de ma cause, de mon bien, de Dieu, bien final, du bien absolu, que je désire, mais comme je ne le vois pas, et bien je ne le désire pas nécessairement. Voyez. Ce que je veux, c'est le bonheur, le bien universel. Si ici-bas, je voyais Dieu, bien là, je ne pourrais plus pécher. Parce que là, ma volonté serait infailliblement attirée par Dieu, et je ne pourrais plus pécher. Voilà. Qu'est-ce que la liberté? Retenez au moins ça. La liberté, c'est le fait que ma volonté, eh bien, elle n'est pas saturée par l'objet qui se présente à elle. Il y a toujours quelque chose qu'elle veut. Voilà, bah, c'est pour ça, vous voyez, pourquoi on n'est jamais rassasié de bien, bah, parce qu'ils sont tous limités. Parce qu'on n'a pas le bien infini. Voilà. C'est pour ça qu'on voilà, certains cherchent la richesse, le fric, et voilà, ils en cherchent plein. Et ils n'en ont jamais assez. Et il manque toujours quelque chose. Il y a toujours un aspect qui manque. Voilà. Eh bien, voilà, si on proposait à ma volonté un bien absolu bon sous tout rapport, alors elle le voudrait nécessairement. Mais à l'égard de tout autre bien limité, eh bien ma volonté reste libre. Elle peut choisir entre différents biens. Elle peut choisir. Parce que tout bien est limité et imparfait. Et donc, sous un certain aspect, eh bien c'est un non-bien. Parce que le coca, ben, ça rafraîchit moins, sauf s'il y a un glaçon dedans et tout, que la bière, par exemple. Donc c'est un non-bien sous un certain aspect. Et c'est bon sous un autre. Donc je peux choisir entre les deux. Voilà. Et donc, comprenez bien ça, la liberté c'est le choix entre des biens particuliers. Le libre arbitre, donc, c'est le fait de choisir, de pouvoir choisir entre des biens particuliers, il existe, voilà, même quand il n'est pas utilisé pour le mal. Ben voilà, je peux choisir une bière ou un coca. Et c'est bien, je suis libre. Je n'ai pas empêché de choisir un coca. Sauf si on est un anti-américain à fond les manettes ou je sais pas, mais en général, c'est pas un péché. Voilà. Le libre arbitre, à la limite, vous voyez, le libre arbitre qui choisit le mal, ben c'est un libre arbitre qui est faible. C'est qu'il existe dans une nature défective, dans une nature qui peut pécher. C'est un libre arbitre faible. D'ailleurs, il se plante. Donc, il choisit le mal. Vous voyez, il est faible. Mais voilà, Dieu, il ne peut absolument pas choisir le mal. Il est complètement libre. Le Christ, il était complètement libre. Il a jamais, il ne pouvait même pas choisir le mal. Au ciel, on ne pourra pas choisir le mal. Ça ne veut pas dire qu'on pourra. Voilà, parce qu'on voit, on veut Dieu nécessairement et on le possède. Et donc, la volonté ne peut plus se détourner de Dieu au ciel. Parce qu'elle l'a. Elle a son objet est saturé. Mais en dehors de Dieu, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Hein. On est complètement libre, les élus ils sont libres au ciel. Il y a des tas de choses. Peut se faire un café caté avec Saint Thomas ou un café philo avec Aristote, ils ont le choix entre les deux. Vous voyez, les deux sont bien, et ils peuvent choisir. Mais ce sera du choix mieux que les. Voilà, que ceux-là. Quoi. Oui, on sera bien le ciel. Quoi. Vous voyez, c'est pas un truc, on est ennuyé, on s'ennuie, on attend, on est obligé d'aimer Dieu, bon, c'est ennuyeux. Non, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Voilà. Et, alors Dieu, il aurait pu, vous voyez, il aurait pu nous créer tout de suite au ciel. Ça aurait été bien, sous un certain rapport, ça aurait été bien mieux parce qu'on n'aurait pas pu pécher. Voyez, d'emblée, il aurait pu nous créer, il aurait pu créer tous les anges aussi, d'emblée dans le ciel, les immerger tout de suite dans la béatitude infinie. Tout de suite, il nous créait dans le ciel. Donc on était, d'emblée, immergé dans la béatitude, dans la vision béatifique. Ça, il pouvait le faire, il aurait parfaitement pu le faire. Le monde aurait été meilleur sous un certain aspect. Sous un certain aspect. Parce que c'est sûr, on n'aurait pas pu pécher, mais en même temps, il n'y aurait pas eu de place pour le pardon. Pas de place pour la rédemption, pas de place pour l'incarnation du Christ, pas de place pour la Sainte Vierge, pas de place pour la rédemption. Ça aurait été un monde différent. Oui. Meilleur sous un aspect, moins bon sous un autre. Toujours est-il que ce n'est pas ce qu'il a décidé. Il n'a pas décidé de faire ça. Il a décidé de faire un monde où on est créé en état de voie, ce qu'on appelle, on chemine vers le ciel. Voilà. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez, Dieu, pourquoi il a choisi ça? Parce qu'il a voulu qu'il y ait un exercice de la liberté qui soit défectible. Qu'on ait une liberté, ce type-là de liberté, cette espèce de liberté-là, qui peut parfois défaillir, qui peut se tromper. Voilà, un amour, il a voulu un amour qui peut défaillir, qui peut être défectueux, qui peut lui dire non. Voilà, c'est ce qu'il a voulu. Et c'est bien, mais ce n'était pas nécessaire. Il aurait pu choisir simplement l'amour qui est libre, qui est réellement libre et qui ne se trompe jamais, et qui aime vraiment Dieu, toujours. Voilà. Et même ici-bas, vous voyez, ici-bas, il aurait pu, il peut, par des grâces extraordinaires, il peut faire que, bah, il pourrait intervenir, voilà, pour relever le pécheur ou pour faire qu'on pêche jamais. Vous voyez, ce serait possible et on serait complètement libre. Hein. on serait quand même libre. Alors ça, c'est toute la question de la grâce et du libre-arbitre, évidemment, qui est sous-jacente à ça, vous comprenez bien. C'est une question très, très pointue, très ardue, je ne peux évidemment pas développer ça. Si ça vous intéresse, si cette question vous intéresse, vous avez dans les activités qu'il y aura à la fin de qu'on vous distribuera les feuillets verts qu'on vous distribuera, il y a la retraite selon l'esprit de Saint-Dominique, prêchée par votre serviteur au mois d'août, donc qui est juste après le RJC, le Rassemblement des Jeunes Catholiques, dont Thibault est un des éminents représentants. Et vous voyez, ça s'enchaîne, donc vous pouvez même faire les deux à la suite. Le Rassemblement des Jeunes Catholiques, c'est fin juillet. Et puis après, vous pouvez enchaîner sur la retraite sur l'esprit de Saint-Dominique, puisque Saint-Dominique, vous savez, c'est le prédicateur de la grâce. Donc on parle beaucoup dans cette retraite de la grâce et du libre-arbitre. Donc je pourrais développer ça si vous voulez. Mais dites-vous bien, Dieu, il peut agir infailliblement pour qu'on ne pêche pas. C'est ce qu'il fait quand on fait du bien, mais il y a toujours Dieu derrière. Par contre, il respecte notre liberté, c'est sûr, d'une certaine façon, et parfois il ne nous relève pas. Voilà. Parfois il permet le péché. Parfois il ne relève pas toujours le pécheur. Mais pourquoi il permet, pourquoi il ne le fait pas toujours? Eh bien ça, Saint Augustin le dit, c'est le grand texte de Saint Thomas, le dit, le grand texte au point 4 que vous avez derrière dans le dos de la feuille. Lisez-le, c'est vraiment un beau texte sur la grâce et le diable-abrite et sur la prédestination. Vous voyez, Dieu n'est pas tenu de le faire. Il ne faut pas sonder les intentions de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a donné sa grâce à tous les hommes pour qu'ils soient sauvés. Tous les hommes peuvent être sauvés, ils ont tous sa grâce, Dieu ne commande jamais l'impossible. Maintenant, quand un homme dit non, Dieu ne le relève pas forcément. Il pourrait le faire, infailliblement, vous voyez. Il a relevé Saint-Pierre, il n'a pas relevé Judas. Pourquoi? Voilà, ça c'est les intentions de Dieu. C'est les décrets de Dieu qu'il ne faut pas chercher à sonder. Ce qu'il faut se dire, c'est que Judas a eu toutes les grâces possibles pour être sauvé. Et s'il se damne, c'est toute sa faute. Ça c'est le point évidemment délicat et très pointu, très difficile à tenir, mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Ouais. Avec les deux grands principes catholiques, vous savez que vous devez connaître par cœur si vous êtes catholique, sinon vous êtes luthérien ou calviniste, c'est Dieu ne commande jamais l'impossible, mais nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'avait été plus aimé de Dieu. Dieu ne commande jamais l'impossible, il donne à tous les hommes la grâce, et si les hommes se damnent, si les hommes se perdent, c'est à cause de leur liberté, c'est parce qu'ils n'ont pas mal usé de leur liberté. Il y a la liberté, j'insiste beaucoup sur la grâce, mais ne jamais oublier que la grâce ne contredit jamais le libre arbitre. Ça c'est sûr. Et puis nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'était plus aimé de Dieu. Voilà. Alors, il y a quelque chose de vrai, vous voyez, quand même, dans tout ce que j'ai dit, le temps passe, alors j'accélère un peu, dans tout ce que je vous ai dit, sur le fait que Dieu souffre d'une certaine façon, il est blessé par notre péché. Oui, en quel sens il est blessé par notre péché? Eh bien parce que quand on pêche, on dénie à Dieu sa dignité de cause ultime, de bien ultime de toute chose. Vous voyez, on lui préfère tel bien particulier. Je préfère l'argent, ou je préfère la pierre, ou je ne sais pas quoi. Je préfère ça à Dieu bien infini. Donc c'est une offense infinie, vous voyez, parce qu'on nie le fait que Dieu soit le bien infini. De toute façon, on met notre bien propre dans un bien limité et fini. Donc c'est une offense infinie à la dignité de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est atteint en lui-même. Si vous voulez, c'est comme, on dit le péché est déicide. Oui, il est déicide d'une certaine façon, mais avec un couteau en papier. C'est comme si je me jette sur vous avec un couteau en papier. C'est un peu dérisoire. Mais c'est vrai qu'il est déicide. La preuve, c'est que quand je vais avoir pas un couteau en papier, c'est-à-dire quand le Christ, quand Dieu va s'incarner, on a vu ce que ça donnait. Là, le péché est vraiment déicide. Mais de soi, Dieu est infiniment, et le bien infini et tout, il n'est pas affecté par notre péché. Mais il est dans la paix, on verra à la fin. Il est quand même dans la paix. Mais le péché l'atteint en ce sens qu'il le frustre. Vous voyez, sa volonté, il avait une volonté conditionnelle, il voulait conditionnellement que tous les hommes soient péchés, en respectant sous la condition de leur libre arbitre, de leur libre réponse, et certains se perdent. Eh bien, cette volonté-là, elle est frustrée pour certains. Ça, c'est le point dont on pourra revenir. Alors, reste un dernier point. Parce que là, on a vu le mal physique, on a vu le mal du monde. Il reste, on a vu le mal du péché, pourquoi Dieu le permettait, que c'était un peu plus compliqué que de dire simplement Dieu, l'homme est libre. Et il faut dire, l'homme, Dieu veut cette liberté-là, ce type de liberté qui inclut une défectibilité. Et c'est bien. C'est pas nécessaire, mais c'est bien. Parce que c'est bien d'avoir une créature qui peut défaillir, qui peut se tromper, qui peut dire non à Dieu. Voilà. D'une certaine façon, c'est parce que la liberté a un prix aux yeux de Dieu. Et puis reste le problème, je vous ai dit, de la mort et de la souffrance. Donc ce que j'ai appelé les épreuves de la vie présente. Oui. Tous les maux innombrables, comme la souffrance et la mort, l'ignorance et l'erreur, qui ne dépendent pas de nous, oui. qui nous affligent. Alors quelle sera la réponse? Eh bien un philosophe, un pur philosophe, vous voyez, serait tenté de répondre comme, comme pour le mal des animaux. Je veux dire, eh bien, la mort de l'homme, bah oui, mais l'homme, il est corporel, il a un corps, c'est matériel, c'est corruptible. Il faut que les choses changent, il y a des interactions, c'est normal, on vieillit, bah oui, on s'use. Et tout se crée, tout se transforme, il y a un renouvellement des êtres, il y a différents degrés d'êtres. Il dirait ça. Il répondra la même chose, vous voyez, qu'on a répondu pour la pauvre gazelle qui se fait manger par le lion. Voilà, le problème, c'est qu'on sent bien qu'il y a un problème. Ça ne va pas, justement. Vous voyez, parce que, précisément, vous dites ça à une mère, comme je l'ai dit, qui vient de perdre son enfant, elle lui dira, mais attendez, je m'en fiche, rendez-vous à mon enfant. Et elle sent bien, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit, ça lui semble pas naturel, la mort? Pourquoi la mort nous semble un scandale? Bien, c'est bien parce que, justement, ça nous semble quelque chose, si c'était purement naturel, vous voyez, ben voilà, l'homme, il est corporel, donc c'est normal qu'il meure. Oui. Si c'était ça, et bien, si c'était purement naturel, ben, ça nous scandaliserait moins. Et ça ne nous scandaliserait pas tant que ça. C'est qu'on subordonne bien que ça ne devait pas être comme ça à l'origine. Ça ne pouvait pas être comme ça. Il y a quelque chose qui nous le fait penser. Même un philosophe peut le dire, ça. Même un philosophe. Même Aristote l'avait vu. Aristote, le païen d'Aristote, avait vu qu'il y avait un problème. Parce que il y a l'âme, quand même. Il y a l'âme immortelle. L'âme spirituelle, qui est forme du corps. Vous voyez, on a un corps et on a une âme. Et cette âme, elle est forme du corps. Elle est faite pour être avec ce corps. Avec ce corps-là. Vous voyez, on a, voilà. Chacun a une âme qui va avec son corps. Et le problème, c'est... Alors, Aristote, oui, ou Saint Thomas, vous montre que l'âme est immortelle. Ça, je vous demande aussi de vous admettre. Il y a 4 démonstrations de l'incorruptibilité de l'âme à partir du fait qu'elle est intelligible. Vous voyez, qu'elle comprend. Qu'elle a une intelligence. Une intelligence est nécessairement spirituelle. Ça, Aristote le montre. Bon, je vous passe la démonstration parce que là, on n'a pas fini. Mais l'âme est immortelle, vous voyez, elle est incorruptible plutôt, il faudrait dire. L'âme est incorruptible. Mais elle est faite pour ce corps-là. Elle est faite pour le corps. Et c'est terrible pour elle d'être séparée du corps. À la mort, l'âme est séparée du corps, c'est ça la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et le corps se dissout, il n'est plus rien. Mais pour l'âme, c'est absolument quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement terrible. Parce que l'âme, elle a besoin du corps pour connaître, pour poser toutes ses opérations vitales, pour poser toutes ses opérations de connaissance. Elle a besoin du corps. Toute notre connaissance, elle vient des sens, vous voyez. Essayez de penser sans les 5 sens. Essayez de penser sans vos sens internes, sans l'imagination. Ben, ça va être drôlement dur. Hein. Essayez, vous n'y arriverez pas. Sans cerveau, vous n'arriverez pas à penser. Hein. Bien, l'âme se retrouve sans cerveau, sans imagination, sans des choses comme ça, sans mémoire sensible. Pour penser, ben, c'est drôlement difficile. Hein. Et pourtant elle subsiste parce qu'elle est spirituelle, elle est incorporelle. Et elle entre dans un état où elle est quasiment, voilà, elle subsiste. Aristote dit, c'est tout ce qu'on peut en dire, elle subsiste. Mais quelle opération elle peut poser? Bah rien, quasiment rien, vous voyez. Et elle entre dans un état, voilà, ça le philosophe le voit, vous voyez. Ça le philosophe le voit, sauf si vous êtes cartésien. Alors si vous êtes cartésien, il n'y a pas de problème parce que vous pensez que vous avez des idées infuses. Ça, ça tient pas debout. Et Kant et Descartes, vous voyez, les formes a priori de la sensibilité, etc., des trucs qui... des idées infuses, des... Non, tous nos concepts qui viennent des sens. Hein. Tout. Absolument tous les concepts. Même les premiers principes. Le tout est plus grand de la partie. Pourquoi vous dites que le tout est plus grand de la partie? Parce que, tout petit, vous avez vu découper un gâteau avec une part, voilà, une petite et une grosse part, et vous voyez que le tout est plus grand de la partie. Mais ça vient des sens. Tous les principes viennent des sens. Tout vient des sens. Et donc l'âme se trouve coupée du sensible, elle ne peut plus penser. Et pour elle, c'est un état extrêmement violent, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a ce désir en nous, désir complètement inefficace, vous voyez, naturel et inefficace, inefficace en le sens qu'il ne peut pas être comblé, mais de ne pas être séparé de notre corps. Et donc on se rend bien compte qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'homme avec une âme spirituelle, eh bien comment se fait-il, vous voyez, qu'il y ait la mort? Eh bien ça, le philosophe, il peut juste dire ça. Il y a un problème. La réponse, c'est celle du théologien. Le théologien nous explique que eh bien, la mort est venue par une catastrophe initiale. Une catastrophe initiale, le péché originel. Voilà. Et que dans l'état de justice originelle, Dieu avait créé l'homme dans la grâce, et avec en plus 4 dons préternaturels, vous savez, qui sont dans la ligne de la nature, qui sont très convenants pour la nature, mais qui n'étaient pas dus à la nature. C'est l'exemption de la mort, l'immunité à l'égard de la mort, l'immunité à l'égard de la douleur, l'absence d'ignorance de ce qu'on a besoin de savoir, l'absence d'erreur, oui, l'absence de douleur, voilà. Tout ça, c'était des dons préternaturels que Dieu avait communiqués gratuitement à l'homme. Voilà, ça, c'est la théologie qui nous en fait, évidemment. C'est la Genèse, c'est Saint Paul, etc. Et tous ces dons, vous voyez, ils avaient été communiqués à Adam, voilà. Et quelle était la racine de tous ces dons? C'était la grâce. La grâce était la racine de ses dons. Voilà, Dieu était créé dans la, Adam était créé dans la, l'amitié de Dieu. Et il avait ses dons préternaturels, ses dons surnaturels, si vous voulez, le fait d'être immortel. Et il les a perdus par le péché. Parce que par le péché, il a perdu la grâce. Et avec la grâce, il a perdu tous ses dons, dont la grâce était la racine. Et le problème, c'est qu'il devait les communiquer, il devait communiquer tous ses dons avec la grâce à ses descendants, à sa descendance. Et donc il l'a perdu aussi pour sa descendance. Ça, c'est tout le drame du péché original. Bon, évidemment, on pourrait faire un café-caté, hein, avec un soi tout seul. Mais vous voyez, on reçoit une nature qui est en état de privation, qui est en état de mal, d'une certaine façon. Parce que, eh bien, on n'a pas plus cette immortalité. Et on l'avait, vous voyez, on l'avait normalement. Elle aurait eu, si Adam n'avait pas péché. Et ça, c'est vraiment l'explication. Mais c'est, vous voyez, c'est la foi qui nous le dit. C'est un mystère de foi. Avec la raison, on peut juste le conjecturer. Voilà, on peut se dire, bah, la raison, ce qu'elle peut dire, c'est bah, finalement, quand on voit, quand on connaît la dignité suprême de l'esprit créé, la dignité suprême de l'homme, quand on voit quand même, c'est quand même pas rien, quoi, l'homme. C'est pas rien. C'est quand même quelque chose de grand. Et quand on voit le poids du corps, quand on voit le poids du mal, vous voyez, le poids de nos passions, c'est quand même quelque chose d'énorme. Comment ça se fait qu'on soit si attiré par le mal, qu'on fasse des choses si déraisonnables? C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait un tel poids de l'univers sur l'homme. Vous voyez, alors que l'homme est spirituel d'une certaine façon par son âme. Et on se dit, bah, c'est pas normal ça. Voilà, mais c'est juste une conjecture. Oui. C'est l'erreur de Pascal. Pascal, il avait fait toute son apologétique, enfin dans les pensées, il n'a pas eu le temps de la faire, mais il voulait faire toute son apologétique justement à partir du péché originel, comme si on pouvait démontrer d'une certaine façon le péché originel. Et en disant, c'est absolument, l'homme est incompréhensible sans le péché originel. Oui. Oui. Donc il faut poser le péché originel. Mais non, c'est pas démontrable le péché originel. Oui, c'est la révélation. On a besoin d'une révélation pour poser ça. Mais c'est la seule explication, oui, ultime au mal de l'homme, oui, à la mort et à la souffrance. Alors bien sûr, Jésus-Christ est venu nous redonner la grâce, mais vous voyez, il ne nous a pas rendu ces dons-là. Jésus-Christ, il aurait pu venir, il aurait pu dire, ben voilà, on refait le paradis terrestre, on met tout à zéro. Et on appuie sur le bouton reset, et puis le compteur, on met tout à zéro. Et on rétablit le paradis terrestre. Ben c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Eh bien, dites-vous bien, quand Dieu reprend sa création, quand Dieu reprend son ouvrage, c'est toujours pour faire mieux. Vous voyez, il y aura une certaine cruauté à Dieu de dire, bon allez, ok, vous êtes planté, on recommence tout à zéro, on recommence depuis le début. Non, si Dieu, quand Dieu refait quelque chose, il le refait en mieux, en 10 fois mieux. Et si Dieu l'a permis, si Dieu a permis le péché original, eh bien c'est justement pour l'incarnation du Christ, c'est pour la rédemption, parce que la rédemption rend infiniment plus gloire à Dieu, vous voyez, qu'un monde dans lequel il n'y aurait eu aucun péché. Vous voyez, parce qu'il y a eu l'incarnation, parce que Dieu manifeste infiniment plus son amour et sa bonté infinie, voyez, dans un monde où il y a eu la rédemption, où le Christ est mort pour nous, où Dieu est mort pour nous sur la croix, que dans un monde où il n'y aurait eu aucun mal. Et ça, c'est la justice, la miséricorde de Dieu, elles sont beaucoup mieux reflétées dans ce monde-ci, vous voyez, avec le péché, mais un monde racheté, vous voyez, que dans un monde où il n'y aurait eu aucun mal. Et il y a une grande dignité, vous voyez, de l'homme. Et l'homme a une dignité infinie, du fait, bah, c'est tout le. Voilà, c'est l'exultète, vous savez, à ça, c'est au Félix culpa. Aux bienheureuses fautes qui nous a valu un tel rédempteur. Voilà. Mais, voilà, le saint Augustin dit que la justification de l'impie, le fait pour Dieu de convertir un pécheur, ça témoigne infiniment plus de la gloire de Dieu, ça rend infiniment plus gloire à Dieu que la création de tout l'univers. D'abord parce que c'est beaucoup plus difficile à Dieu de créer tout l'univers. Parce que, voilà, il dit retourner saint Paul librement sur le chemin de Damas, c'est quelque chose de pas facile, hein. Il n'était pas bien disposé encore une fois. Et Dieu l'a fait, en convertissant librement, parce que saint Paul reste libre, il se convertit librement, mais c'est quand même très difficile. D'ailleurs, on ne voit pas comment ça se fait. Donc vous voyez, c'est plus difficile à lui que de créer tout l'univers. Voilà. Et donc, voilà, dites-vous bien, le monde tel que Dieu l'a voulu lui rend infiniment plus gloire avec la rédemption, avec le rachat de l'homme, que le monde limité, qu'un autre monde qu'il aurait fait dans lequel il n'y aurait eu aucun mal. Dans le monde dans lequel il nous aurait créé tout de suite au ciel. En conclusion, comment regarder le mal? Comment regarder le mal? Eh bien, vous voyez, j'ai bien conscience d'avoir dit des choses très limitées, vous voyez. Et pourtant, c'est long. Voyez, il faudrait voir le mal comme Dieu le voit. Vous voyez, il faudrait voir le mal comme Dieu le voit. Dieu, c'est un océan de paix, dit Sainte Catherine de Sienne, vous voyez. Un océan de paix. C'est un océan de paix, mais c'est une paix qui n'est pas indifférente, vous voyez, qui n'est pas impassibilité. Dieu est compatissant. Mais simplement, il ne se trouble pas devant le mal. Il n'est pas troublé par le mal. Vous voyez, alors pour nous c'est très mystérieux, hein, c'est quelque chose, Dieu n'est pas troublé, bah voilà, le péché de l'ange, ça le trouble pas. Bah, pourtant, nous, on dirait, bah, ça a dû être un sacré échec pour lui quand même. Il crée un ange super et tout, Lucifer et tout ça, et blanc, premier acte, ou deuxième acte de Lucifer, ouais, le premier acte de Lucifer, un péché énorme, quoi, il se révolte. Bah, Dieu pourrait se dire, bah non, c'est complètement raté, hein. Boum, j'ai complètement raté mon œuvre, c'est foutu. Bah non, ça le trouble absolument pas. Le péché de l'ange ne le trouble pas. La mort du Christ sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Le cri de Christ sur la croix, ça ne le trouble pas. Il est impassible. Dieu le Père, parce pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voit, il voit, et c'est toute la différence entre nous qui ne le croyons seulement ou qui sommes obligés de le poser avec le philosophe. Vous voyez, il voit que tout concourt au bien. Lui, il voit, il est dans l'unique instant présent de son éternité, il voit que tout concourt au bien. Il voit pourquoi ce mal, et il voit le bien justement pour lequel ce mal est permis. Il le voit. Et c'est pour ça qu'il est impassible. Et les bienheureux, les élus au ciel, ils le voient aussi, si vous voulez, Dieu leur prête ses yeux d'une certaine façon. Ils le voient avec les yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'aussi leur bonheur est impossible. Est impassible, est complètement. Leur bonheur est, voilà, est immuable, si vous voulez. Ils ne se laissent pas troubler. Alors pour nous, c'est très mystérieux, parce que, évidemment, on se dit, attendez, une harmonie dans laquelle il y a un enfer, déjà, c'est pas terrible. Quoi. C'est largement, ben voilà, pour revenir à Dostoïevski, la boucle est bouclée. Dostoïevski, ben voilà, l'argument d'Ivan Karamazov, vous voyez. C'est très bien, c'est bien gentil, mais moi, une harmonie dans laquelle il existe un enfer, j'en veux pas. Un paradis, je veux pas aller au ciel s'il y a un enfer à côté. Je serais pas heureux. Alors, c'est pas que, voilà, je me révolte. Vous voyez, il dit, je refuse pas d'admettre Dieu, j'admets tout à fait l'existence de Dieu, mais je lui rends mon billet, je lui rends mon billet d'entrée. Je dis non, parce que le prix est trop élevé, le prix à payer est trop élevé. Alors, je vous rends, voilà, monsieur Dieu, je vous rends respectueusement mon billet d'entrée. Et son frère, Alyosha, bah, dans le roman, vous voyez, il se dit, bah, mais c'est de la révolte, et c'est de la révolte pure, parce que justement, c'est de la révolte. Mais c'est très grave de faire ça, parce que c'est pas à nous, qui sommes des créatures qui règnent du néant, de fixer les conditions du voyage. De dire, ah ben, le billet est trop élevé et tout. Parce que c'est pas le terme du voyage, n'oublions pas que c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. On ne peut absolument pas imaginer tout ce que Dieu nous a préparé. Donc c'est sûr, il faut le voir, il faut le méditer dans la foi. Et le voir un peu comme le voient les saints. Ben, Angèle de Foligno, vous voyez, qui disait, la bonté de Dieu m'a été autant manifestée dans les damnés qui la refusent que dans les bons qui l'acceptent, qui l'accueillent. La bonté de Dieu m'a été autant manifestée dans les damnés qui la refusent que dans les bons qui l'accueillent. Ça, c'est, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que pour nous, ici-bas, bah, l'ultime réponse au mal, bah, c'est l'Apocalypse. Quoi. C'est le chapitre 21 de l'Apocalypse. Vous savez, j'entendis une grande voix, etc., venue du trône, qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien monde s'en est allé, et celui qui était assis sur le trône, voilà, dit, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est magnifique, vous voyez. Mais c'est pas une réponse pour ici-bas, c'est sûr. C'est une réponse dans la foi. Voilà. Je vous remercie, je vous demande pardon d'avoir un peu débordé, c'est sûr, pour le temps. Comme je vous ai dit, la question est illimitée, donc la réponse, vous comprenez qu'elle ne pouvait pas être... elle devait déborder un peu de ses limites aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, oui.
Plus fort,
plus fort, parce qu'on n'entend pas du tout. Oui, alors j'ai un peu sauté ça pour gagner du temps. ce que je veux dire par là, c'est qu'une créature en elle-même, alors en elle-même, elle est limitée. Elle a sa règle, elle est en dehors d'elle-même. Vous voyez, elle tend vers un bien, elle n'est pas le bien suprême. Elle tend vers ce bien, nécessairement, parce qu'elle est limitée. Elle n'est pas le bien infini. Le bien infini, c'est Dieu. Et donc, elle peut tendre ou pas, elle peut, vous voyez, elle peut préférer justement ce bien limité, une chose limitée, à ce bien infini. Je peux pécher. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ma règle en moi-même. Le seul qui a sa règle en lui-même, c'est Dieu. Dieu est d'une certaine façon, vous voyez, il est complètement autonome. Il se donne sa propre loi. Il se donne sa propre règle parce qu'il est le bien infini. Il est le bien infini et donc il est le seul qui a sa règle en lui-même. Mais la créature, elle a une règle, elle a une loi morale, ben voilà, qui ne dépend pas d'elle. Et donc elle peut y adhérer ou pas. C'est ce que je veux dire. Bon, c'est un peu complexe, c'est pour ça que j'ai volontairement sauté ce point. Mais vous voyez, Dieu, si Dieu nous créait de façon impeccable, c'est-à-dire ne pouvant pas pécher, ne pouvant pas défaillir, eh bien c'était une grâce particulière qu'il nous faisait. Soit il nous mettait tout de suite dans le ciel, soit il intervenait tout le temps, voyez, par des grâces extraordinaires, pour que, bien librement, on réponde toujours oui à ses propositions. Mais on a toujours les grâces pour le faire. Donc c'est très délicat, hein, c'est des questions de grâce et de libre-arbitre. Hein.
Oui. Avant le péché originel, il y avait quand même une certaine attirance pour le mal.
Ben, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une attirance. Déjà, le péché d'Adam, c'était un péché extrêmement grave. Puisqu'on a l'impression, bah, le pauvre, voilà, était tenté et tout. Mais... Non, il était déjà, du fait qu'il avait ses dons préternaturels, il avait l'exemption d'ignorance, vous voyez. C'est un péché d'orgueil très très grave. Nous souvent, bah, la plupart des péchés, c'est des péchés de passion. C'est des péchés, voilà, parce qu'on a des passions qui dominent sur nous, et c'est des fautes, bah, ça veut pas dire que c'est pas des péchés mortels, hein, mais c'est des péchés de faiblesse, on dit. Des péchés de faiblesse. Parce que les passions dominent. Adam, lui, était parfaitement maître de ses passions. Il dominait parfaitement sur lui. Donc, c'est un péché d'orgueil. Mais justement, comme s'il a pu pécher, c'est que Dieu lui avait communiqué ce libre arbitre qui peut défaillir et qu'il pouvait préférer tel bien particulier, parce qu'il a raison de bien, vous voyez, au bien suprême. Choisir d'aimer tel bien, mais ne pas l'aimer en Dieu. C'est ça le péché. C'est quand j'aime un bien et que je ne l'aime pas en Dieu. J'en fais ma fin ultime. Choisir que. Le péché d'Adam, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir voulu, c'est le péché d'avoir voulu être Dieu, de décider ce qui était bien et mal, d'une certaine façon. D'être lui-même sa règle, sa propre règle. Vous voyez, je décide moi-même de ce que je suis. De ce que je suis et du bien et du mal. Ben, ça, ce sera la place de Dieu. C'est ça son péché. Et donc, il y avait cette possibilité, c'est sûr. Mais dites-vous bien, c'est pas un péché de faiblesse. Hein. Il y avait cette possibilité, mais ça veut pas dire qu'il y avait une attirance pour le mal. Il a péché vraiment, vraiment, il n'était pas attiré comme par des passions, comme mu par des passions. Il l'a fait sciemment, un peu comme le péché de l'ange. L'ange, c'est encore pire.
Oui. Là, vous nous avez dit que pour nous rendre impeccables, il faudrait donc une intervention constante de Dieu. Vous nous avez dit aussi que la liberté avait un prix aux yeux de Dieu, mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas dire que qu'il y avait un retrait volontaire de Dieu.
Non,
je
ne
comprends
pas
pourquoi.
Oui, mais justement, c'est la question de la grâce et du libre-arbitre. C'est très délicat. C'est-à-dire que Dieu respecte quand même la liberté. Mais oui, ce qu'il faut dire, c'est que Dieu n'est pas tenu d'intervenir à chaque fois. Bon, alors il faudrait parler des grâces suffisantes et des grâces efficaces, vous voyez. Dieu donne sa grâce, il donne à tous les hommes sa grâce pour être sauvés. Et dans une grâce, quand il donne une grâce, si l'homme sa grâce est infailliblement efficace, parce que Dieu est tout puissant. Donc sa grâce est efficace pour cet acte-là, pour un acte donné. Par exemple, bien, je vais, je sais pas, voilà, j'entends une super prédication et je suis touché de repentir. Voilà, le fait que j'ai entendu cette super prédication, voilà, c'est une grâce que Dieu me fait. Elle est infaillible, voilà, je suis touché. Après, il va falloir que je réponde. C'est là que mon libre-arbitre va entrer. Mais parce que dans cette grâce est offerte une autre grâce, un peu comme le fruit est offert dans la fleur. Qui va me permettre, si j'y réponds, c'est là que le libre-arbitre entre en jeu, si je réponds à cette grâce, eh bien une autre grâce va m'être donnée tout de suite. Mais si je réponds pas, j'ai entendu la super prédication, j'ai été touché, je vais pas me confesser, par exemple. Là, vous voyez, Dieu n'est plus tenu de redonner sa grâce. Il a donné une fois, il a donné toutes les grâces possibles pour être sauvé, mais il n'est pas tenu de... Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. Il n'est pas tenu de relever le pécheur. Il n'est pas tenu d'empêcher le mal non plus. Il n'est pas tenu de l'empêcher le péché. Il n'est pas tenu de relever le pécheur qui a péché. Mais évidemment, votre question est juste parce qu'il y a le côté du mystère de la conciliation de la grâce et du libre-arbitre. Et c'est vraiment mystérieux. Il faut tenir encore une fois là, les deux bouts de la chaîne. On est libre. Si on pêche, c'est notre faute. Et si on est sauvé, c'est grâce à Dieu. Mais il ne faut pas oublier ça, c'est grâce à Dieu. Parce que Dieu, par une grâce... si la Sainte Vierge n'a jamais péché, elle a été parfaitement libre, hein. Elle a correspondu à la grâce, mais à l'origine, il y a une grâce. Et même la première des grâces, lui mettait les conceptions, c'est pas vrai.
Mais dans la mesure où vous avez dit donc que Dieu peut mouvoir la volonté de l'intérieur,
oui.
Donc ça veut dire que s'il ne la meut pas de l'intérieur, dans les cas où il ne le fait pas, j'imagine qu'entre
deux
fois les
juges,
il n'a pas fait la même chose.
Oui, mais c'est ça. Mais
donc ça veut dire que dans un cas, il était moins présent que dans l'autre.
Oui.
Ou pas.
Oui. Oui.
Donc il y a un retrait volontaire.
Nul ne sera...
Pas de bol pour lui là.
Attention. Attention. Nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'avait été plus aimé de Dieu. Celui qui est damné, au bout du compte, il a été moins aimé de Dieu. Ça, il faut le dire. Mais il a eu toutes les grâces possibles pour se donner. Mais Dieu pouvait toujours. Il aurait pu convertir Judas. C'est vrai. Il y a la libre arbitre aussi, mais c'est vrai qu'il faut le tenir, sinon Dieu n'est pas tout puissant. Hein. très important. Mais encore une fois, si Judas se damne, il a eu toutes les grâces possibles pour être sauvé. Mais Dieu aurait pu encore lui en donner. Vous voyez mais c'est quelque chose de très délicat. Hein. Il ne faut jamais perdre de vue que Dieu est amour hein, dans ces questions. Parce que sinon, justement, on va se dire, pas de bol pour Judas. Il a eu toutes les grâces dont il avait besoin. Mais voilà, c'est le texte que vous ai mis de Saint Augustin, vous voyez, ou de Saint Thomas, pardon. Ne sondez pas les intentions de Dieu. Pourquoi Dieu relève un tel? Pourquoi il relève Saint Pierre et pas Judas? Il ne faut pas sonder ses intentions. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi il relève Saint Pierre et pas Judas? C'est la prédestination, vous voyez. Ce qu'il faut dire, c'est que si Judas se damne, c'est de sa faute à lui. Et si Pierre se sauve et devient un grand saint, c'est grâce à Dieu. Mais ouais, bon, ça c'est vraiment la grâce ennemie barbite. C'est un autre café gâté, on peut faire un autre café gâté sur la grâce ennemie barbite, mais ça dévie déjà, vous voyez. C'est vrai que c'est le cœur du problème du péché. Hein.
Parce qu'on dit, on sait que oui. Dieu veut le salut des hommes. Donc, comment il peut vouloir le salut des hommes sans justement.
Eh bien, il veut le salut des hommes, mais déjà, il veut en même temps que ce salut se fasse, il veut le salut de tous les hommes, mais il veut en même temps que leur liberté, il veut cette liberté-là, c'est qu'il peut dire non, déjà. Alors qu'il aurait pu vouloir une liberté qui dit toujours oui, et qui soit néanmoins libre. Il a voulu cette liberté-là. Et en même temps, il n'intervient pas toujours pour sauver des hommes. Il pourrait le faire, mais il n'est pas tenu de le faire. Pourquoi il n'est pas tenu de le faire? Parce qu'il a donné à tous toutes les grâces dont ils ont besoin pour être sauvés. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, Saint Thomas vous dit de ne pas le faire. De ne pas aller plus loin, de ne pas chercher à sonder les intentions de Dieu. Parce que c'est connaître ça, on le saura au ciel, quand on verra l'essence de Dieu. Mais il faut bien tenir une chose, c'est que c'est vrai, nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'était plus aimé de Dieu. Alors, au sein, il y a des petits saints, il y a des grands saints. Sainte Thérèse d'Avila, elle est plus aimée de Dieu que tel bienheureux, voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle a reçu plus de grâce, parce qu'elle est plus sainte. Mais vous voyez, c'est très délicat, parce qu'un tel qui aura reçu apparemment plein de grâces, qui aura eu tout ce qu'il fallait pour être sauvé, et bien il ne le sera pas au bout du compte, parce qu'il a été moins aimé de Dieu au bout du compte. Il faut le dire. Mais il a eu quand même toutes les grâces pour le sauver. Enfin, il faut tenir les deux bouts de la chaîne et ne pas chercher à sonder les intentions de Dieu. Relisez le texte de la Contra Gentes que j'ai mis, le gros texte qui est sous le point 4. C'est celui-là. Oui. Tout est dit là-dedans. Dieu, ce qu'il faut dire, c'est que Dieu permet le péché, vous voyez, il permet ce péché-là, et il ne relève pas toujours le pécheur. Il ne le relève pas toujours. Parfois, il le relève, mais pas toujours. Il n'est pas tenu de le faire. Bon, c'est les desseins infondables de Dieu. Il ne faut jamais oublier que Dieu est amour. Quand on avance, c'est souvent. Oui.
Moi, j'ai une question par rapport au mal nature. Est-ce que et particulièrement en fait sur la causalité des êtres l'un sur l'autre, oui. Est-ce que ça voulait dire en fait que Dieu souhaitait un règne dans lequel l'être fort dominerait et survivrait par rapport aux autres et par rapport aux grandes catastrophes?
La question c'est, est-ce que Dieu voulait finalement que dans son monde, ce soit le plus fort qui gagne? C'est ça un peu, qui l'emporte sur l'être faible et qui survive aux grandes catastrophes. Eh bien si, oui d'une certaine façon, si c'est la nature de cet être, vous voyez, le lion il est plus fort que, d'une certaine façon, que l'antilope. Parfois il a réussi à partir, mais il est plus fort. Donc Dieu veut, voilà, que celui-là. Mais c'est très délicat, oui, parce que pour l'homme c'est complètement différent, comme j'ai dit. Adam, les grandes catastrophes et tout ça, au paradis terrestre, il pouvait les prévoir. Vous voyez, parce qu'il avait ce don préternaturel de science qui faisait que. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de tremblement de terre au paradis terrestre. Hein. Mais Adam savait que à tel moment de la journée, il n'était peut-être pas bon de se promener vers l'Aquila, quoi. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il pouvait, mais oui, d'une certaine façon, dans le sens où il a donné une nature à tel être, eh bien voilà, il comprend que Dieu veut que d'une certaine façon, eh bien. Certains, ce que Dieu veut, c'est que toutes les. Que, voilà, si, d'ailleurs, si certaines espèces n'ont pas survécu, c'est que Dieu n'a pas voulu qu'elles survivent. Vous voyez? Pourquoi il n'y a plus de dinosaures? Parce que, voilà, parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, d'une certaine façon, si on est darwinien, on dira ça. Et oui, pourquoi pas? Moi, ça ne me choque pas. Hein. Ça ne me choque pas en réservant le cas de l'homme. qui est quand même très à part. Et ça ne vaut pas pour l'homme. Mais pour les animaux, oui.
J'ai une deuxième petite question sur le paradis. Donc vous dites qu'en fait on a sur Terre finalement le choix toujours entre des biens.
Oui.
Alors déjà, est-ce que ça voudrait dire que un crime est le choix d'un bien finalement
oui.
Minime.
Oui.
Et puis aussi, est-ce que ça veut dire aussi qu'au paradis finalement on aura le choix entre des biens parfaits ou alors des biens moins limités?
Bien, alors deux choses une. Déjà dans tout péché, il y a un bien. Oui, c'est bien ça qui nous attire. Voilà, un crime par exemple, voilà, je sais pas, l'adultère par exemple. Ben, si ça nous attire, si ça nous semble très agréable, eh bien c'est que c'est un bien, sous un rapport, parce qu'il y a de l'être. Je vous ai dit, le mal existe toujours dans un bien. Bon voilà, le même acte, l'acte conjugal fait dans le mariage, c'est bien. L'acte conjugal dans l'adultère, fait avec quelqu'un d'autre que voilà, que son légitime époux, eh bien c'est un mal. Mais c'est un bien, c'est pour ça que ça nous attire. C'est parce qu'il y a un certain bien, un certain plaisir, et c'est bien agréable. Voilà, c'est pour ça que tous les péchés sont commis comme ça. Le péché, c'est justement de choisir, de se focaliser sur cette chose, sur ce bien limité, et d'en faire comme le bien suprême, et de le vouloir indépendamment du bien universel. Je vais choisir tel bien particulier. Alors je sais bien, vous voyez, d'une certaine façon, et implicitement, je m'éloigne du bien universel. C'est-à-dire que je préfère ce bien particulier. Je sais que c'est... Voilà, et... Alors évidemment, c'est implicite, vous voyez, parce que... ben voilà, le voleur qui vole une voiture, il n'est pas en train de se dire « Oh là là, je suis en train de me détourner de ma fin ultime. » Évidemment. Mais il pense pas tellement ça. Ce qu'il voit, c'est le bien, c'est la belle voiture qu'il va avoir. Ben, c'est un bien, la voiture. Voilà. Et c'est pour ça, sinon ça ne l'attirerait pas. Donc ça, c'est la première question. Donc, sous le péché, sous tout mal, il y a un bien. Et ça vaut pour le péché. Hein, toute action mauvaise... elle est bonne. Et même c'est ce que Dieu cause quelque chose dans l'action, dans le péché. J'ai dit, Dieu il n'est absolument pas cause du péché, il cause qu'une chose dans le péché, c'est le matériel du péché. Vous voyez, c'est-à-dire l'acte lui-même, en lui-même qui est bon. Voilà, l'acte compose, il a de l'être, donc il est bon. Donc ça c'est causé par Dieu. C'est la seule chose que Dieu cause dans le péché. Ensuite, la réponse au ciel, eh bien au ciel, notre volonté veut nécessairement le bien infini, mais il y a des biens limités en dessous. Alors voilà, je l'ai dit, parler avec Aristote ou parler avec saint Thomas d'Aquin. Les deux sont bien, mais les deux sont limités. Ça ne veut pas dire que les... Voilà. Mais comme tout est rectifié, comme notre volonté est fondamentalement rectifiée, eh bien quand je choisis ce bien particulier, ça ne m'éloigne jamais de Dieu, jamais du bien universel. Et c'est pour ça que je ne pêche pas. Parce que je vois le bien universel, je l'ai en même temps. Et en dessous de ce bien universel, il y a un tas de biens particuliers que je peux faire. Je peux aller, voilà... Quand il y aura une nouvelle terre, des cieux nouveaux, on pourra se balader cette partie, discuter avec un tel, poser tel acte, on pourra faire de la philo ou simplement contempler l'essence de Dieu. Mais il y a encore des biens limités au ciel. Au ciel, il y a encore des biens limités.
Oui.
Pour faire le mal.
Ouais.
C'est la religion vaudou alors ou...
En fait, j'ai vécu en Afrique.
Ah oui, d'accord.
Et,
oui. Bah, ça va pas. Parce que le problème, c'est que. On prie pas pour faire le mal. Ou alors, quand on prie, c'est pour le bien. Donc, si vous avez prié Saint-Expédite, c'est déjà. C'est un saint, donc un ami de Dieu, donc il peut pas vouloir qu'on fasse le mal. Donc, le problème, c'est que souvent, sous couvert de Saint-Expédite, ce qu'il prie. C'est souvent les démons dans les religions vaudou, africaines, etc. Dans l'animisme et tout ça, c'est souvent en fait des esprits qu'ils appellent. Alors il y a tout un culte justement au Brésil, vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Macumba et des choses comme ça, vous savez, qui est un culte des saints. Mais en fait, les saints sont en fait, quand on creuse un peu le truc, on voit qu'ils mettent des offrandes et tout ça au pied des saints, mais en fait derrière les saints, en fait, c'est vraiment des démons qui les adorent. Qui, voilà.
Oui,
ça m'étonne pas. C'est bon, plus d'autres questions? Donc je fais passer la...